Bonjour. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc au nom de l'espace Mendès France, je suis ravie de vous accueillir pour cette journée qui fait suite, donc qui est organisée avec l'école doctorale Humanité. Je laisserai la parole ensuite à Jérôme Grévy, qui est directeur de l'école doctorale. Donc c'est la deuxième journée. Et pile, il y a un an, tout pile, nous avions organisé les sciences humaines au défi du numérique, qui était une journée d'études parmi les que vous pourrez retrouver si vous n'étiez pas là sur le site de l'Espace Mendès France où tu as été enregistré. Hier, nous avons proposé une journée d'atelier autour des outils Zotero et Omeka avec une série d'exemples et de nombreux intervenants qui, pour certains, sont encore là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous continuons sur les humanités numériques avec, je vais rapidement vous présenter le programme. Donc, il y aura une introduction par Sarah Casano-Skagamar. Ensuite, une intervention de Stéphane Pouliot, qui est ingénieur de recherche au CNRS et qui est notamment membre de Humanum. Hier, nous avons eu Sean Takat qui était présent. Donc là, ça fait le pendant, on va dire, français de l'utilisation des outils numériques. Ensuite, Thierry Sozo présentera un exemple, on va dire, concret d'utilisation en histoire des outils numériques. Et cet après-midi, nous aurons Viera Rebelo-Dodouin qui, elle, a travaillé sur les outils de prosopographie pour des libraires éditeurs du 19e siècle. Thierry Pasquier et Régis Robineau qui sont déjà intervenus hier soir, mais séparément, enfin hier, séparément vont intervenir cette fois à deux voix sur la présentation de 3IF et du projet Biblissima. Et nous aurons à la fin deux projets qui sont menés en histoire, l'Atlas historique Nouvelle-Aquitaine qui sera présenté par Guillaume Bourgeois et le référencement des fouilles, enfin des carnets, des lettres du Père de la Croix par Caroline Laforêt. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je passe le micro à Jean Grévy.
Merci, merci beaucoup Héloïse. Merci beaucoup à Didier Moreau qui est là. Et merci à l'Espace Pierre Mendès France pour cette deuxième session sur les humanités numériques. Alors, ça fait partie des thématiques qui nous tiennent à cœur dans la formation doctorale, mais qui est ouverte à d'autres largement. Et c'est pour ceci qu'il y a deux facettes que nous travaillons particulièrement avec l'Espace Pierre Mendès France. L'une, c'est ce qu'on appelle, nous, la valorisation de la recherche. Être capable de communiquer sur la recherche qui est faite, ça, l'Espace Pierre Mendès France le fait depuis longtemps, mais aussi l'espace, la recherche en train de se faire. Et c'est pour ceci, juste un rappel pour ceux qui n'ont pas participé, qu'il y a des articles qui sont conçus, travaillés en ligne, en lien avec la rédaction de l'actualité. Et ces travaux présentent le questionnement, l'évolution, les réflexions telles qu'elles se font. C'est important non seulement pour la société de le savoir, mais aussi pour les doctorants, futurs docteurs et futurs chercheurs, s'ils continuent dans cette voie, parce qu'aujourd'hui, il faut non seulement faire la recherche, mais savoir, faire savoir, savoir communiquer. Pour une question d'abord très pratique, c'est comme ça qu'on réussit à avoir des dossiers de subventions et des fonds, mais aussi parce que c'est un enjeu pour la société. Je dirais un peu la même chose pour les humanités numériques. Nous avons, ceux qui sont du siècle dernier comme moi, vu à quel point le numérique transformait la société. Mais la préoccupation dans la formation, c'est d'associer deux dimensions. D'abord, la maîtrise comme un outil de la recherche. Et ensuite, la réflexion, la réflexivité sur la recherche. Alors un outil, hier il y avait déjà des présentations, il y en aura encore aujourd'hui, pour vous alerter si vous ne le savez pas, pour vous donner des moyens si vous commencez juste, sur la palette immense qui peut exister dans la recherche. On peut concevoir des outils, on peut s'approprier des outils, on peut les transformer. C'est un point important puisque trop souvent certains pensent qu'il suffit, par exemple en histoire, d'avoir des archives anciennes dans des fonds bien tenus, mais Ensuite, il faut les traiter, les transformer. L'année dernière, Damon Mayafre, qui venait de Nice, nous a expliqué comment l'analyse du discours politique transformait la connaissance du politique que l'on avait grâce à cet outil. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'on a la facilité pour compter les occurrences de certains mots ou bien les verbes qui sont mis en œuvre, mais c'est aussi parce que le questionnement change et donc la connaissance change. Donc, c'est vraiment un enjeu sur l'aspect de la recherche. Un enjeu ensuite pour la société, parce qu'aujourd'hui, on nous abreuve de ce mot d'intelligence artificielle. Comme si l'homme allait être dépossédé de la réflexion et de l'intelligence. Cette intelligence n'a rien d'artificiel, elle vient des hommes, au départ, qui ont conçu les objets, qui les ont pensés, qui les ont mis en œuvre, et c'est ainsi qu'il y a une réflexion par rapport à la proximité, pour savoir qu'est-ce qui se passe, qui sait quoi et comment on sera capable de vivre et puis d'avoir ce que l'on souhaite avoir à proximité. Et là, l'authenticité peut arriver par des moyens pédagogiques extérieurs. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là que nous avons voulu développer cette dimension. Et merci encore à l'espace Pierre Mendès France de l'avoir saisi, de l'avoir accompagné avec nous pour que l'on voie non seulement l'outil au point de vue pragmatique, mais aussi le changement dans la recherche et la connaissance qui se construit grâce à ces nouveaux outils qui surgissent chaque année en ce moment et qui viennent plus fort. Voilà, c'est déjà assez long et on va vite rentrer dans le vif du sujet. Un grand merci à tous ceux qui ont préparé.
Je me permets de rajouter, Jérôme, tu faisais allusion à l'actualité Nouvelle-Aquitaine. Plusieurs étudiants, doctorants, d'ailleurs tous les doctorants sont invités à proposer des articles. On a organisé une formation, c'est quelque chose que nous allons continuer. L'Espace Mendès France a l'habitude depuis une vingtaine d'années, donc nous allons fêter nos 30 ans, mais ça fait voilà, des années que nous travaillons, depuis le début nous travaillons avec des chercheurs, et d'inviter justement les doctorants à venir découvrir le lieu, mais aussi à proposer des stages. Voilà, nous sommes ouverts pour travailler avec les doctorants. Je vous signale également que nous avons mis des exemplaires de la revue de l'actualité Nouvelle-Aquitaine pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vous invite à découvrir. Nous avons une plateforme en ligne. Et donc, pour ceux qui veulent proposer des articles, n'hésitez pas à nous écrire. Il y a justement un formulaire de proposition d'articles. Nous allons débuter la journée. Sarah, je t'invite à...
Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par remercier l'Espace Mendès France et l'École doctorale Humanité de m'avoir donné la possibilité et la chance d'introduire cette journée. Juste pour me présenter en quelques mots, je suis Sarah Kazanos-Kagamar, donc doctorante en histoire médiévale, attachée au laboratoire CESCM. J'ai donc, pour ma thèse, franchi la porte des humanités numériques, notamment avec la construction d'une base de données pour dépouiller mes sources et voir si je pouvais finalement les aborder d'une manière différente. Donc, sans plus tarder, commençons cette introduction. Alors, j'ai titré cette introduction en mettant « Humanité numérique, une introduction », et j'aurais pu mettre derrière une introduction pas si simple, parce que vous allez voir, et j'espère que je vais vous montrer un petit peu que finalement les humanités numériques sont difficiles parfois à bien cadrer. Alors, pour commencer, il faut savoir que les humanités numériques on a du mal en fait à trouver une définition claire, une définition fédératrice des humanités numériques. Même si cette notion est en vogue, on a du mal en fait à trouver une définition fédératrice. Donc, l'origine du mot humanité numérique, digital humanities en fait en anglais. Et ce sont les anglophones en fait qui ont créé cette notion de digital humanities. Donc ça a été créé en 2004 par Suzanne Schreibman, Ray Simons et John Unsworth avec l'ouvrage A Companion to Digital Humanities. Ensuite, en 2008, A Digital Humanities Manifesto propose une définition qui dit « Les humanités numériques ne constituent pas un champ scientifique unifié, mais un ensemble convergent de pratiques qui explorent un univers dans lequel l'imprimé n'est plus le médium normatif et exclusif par lequel la connaissance est publiée et diffusée. » Donc là, on se retrouve dans le monde anglo-saxon. Et en 2010, nous avons le manifeste des Digital Humanities qui a été créé suite au That Camp à Paris, donc en 2010, et qui dit « Les Digital Humanities désignent une transdiscipline, donc ça c'est important parce que ça peut poser problème, porteuse des méthodes, des dispositifs et des perspectives heuristiques liées au numérique dans le domaine des sciences humaines et sociales. » Donc là déjà, on se retrouve avec deux définitions. Et donc ça, c'est une définition quand même qui est acceptée, qui quand même est reconnue. Mais ensuite, en fait, vu la nature des humanités numériques et ce numérique qui finalement appelle à l'évolution sans cesse, on se retrouve avec de plus en plus de définitions. Donc j'en ai sélectionné deux qui me semblent à peu près claires et qui montre un peu le monde des chercheurs et le monde de la formation aussi, qui essaye en fait de dresser une définition claire des humanités numériques. Donc on a en 2017 Christa Pellissier qui nous dit « Le domaine des humanités numériques croise l'informatique avec les sciences humaines et sociales. » Donc c'est assez clair. Il vise la diffusion, le partage, la valorisation du savoir scientifique et peut être appréhendé comme un nouveau champ de recherche restant à explorer, une transdiscipline, intégrée non pas dans un champ unifié, mais plutôt dans une mosaïque de pratiques convergentes. Et une définition proposée donc, par la formation Parcours Humanité Numérique de l'École Normale Supérieure, donc, que j'ai trouvée cette année, qui nous dit « Les humanités numériques sont un ensemble de méthodes et d'outils que l'on peut appliquer à l'enseignement et à la recherche en littérature et en sciences humaines et sociales et qui permettent d'enrichir les objets d'étude, d'en faciliter la diffusion, l'analyse et l'archivage par le biais des technologies issues de l'informatique. » Donc, pour peut-être résumer, c'est quand même la première phrase de Christa Pellissier qui nous dit « Le domaine des humanités numériques croise l'informatique avec les sciences humaines et sociales. » Après, ensuite, il y a beaucoup de branches derrière tout ça. Donc voilà un petit peu pour vous montrer que finalement, les humanités numériques ne sont pas si faciles à cerner, en fait. Il y a beaucoup de choses derrière. Alors, juste quand même pour dresser, en bonne historienne que je suis, j'espère en tout cas, une brève histoire du lien entre humanité et informatique. Donc, il faut savoir qu'en fait, cette relation entre les humanités et l'informatique a commencé déjà dès la fin des années 40, juste après la Seconde Guerre mondiale, avec Roberto Bussa et son projet de transcription informatique de la Somme théologique de Thomas d'Aquin, qui a été faite en partenariat avec IBM, en fait. Ensuite, donc des années 70, des années 40, pardon, aux années 70, on a cette période qu'on a appelée Literary and Linguistic Computing. Donc en fait, c'est une discipline qui met les outils informatiques à disposition des sciences humaines pour augmenter la capacité d'analyse des textes. Donc là, on est surtout concentré sur les textes grâce à la puissance de calcul des premiers ordinateurs. Donc on va surtout s'intéresser à l'encodage des textes, on va s'intéresser à la lexicométrie, au comptage de l'occurrence des mots pour l'analyse du texte. Ensuite, dans les années 80, ça marque un recul avec ces pratiques de Literary and Linguistic Computing et on va essayer de voir si on ne peut pas améliorer déjà la mobilisation des technologies informatiques et aussi voir si on ne peut pas intégrer d'autres disciplines que cette idée de linguistique, en fait. Et on essaye aussi de structurer des communautés plus importantes autour de cette introduction de l'informatique dans les humanités. Ensuite, les années 90, c'est l'arrivée du web. Arrivée du web, donc, qui introduit une grande révolution, en fait, dans la manière de transmettre les informations. Et les humanités se rendent compte qu'en fait, ils peuvent diffuser le savoir, diffuser l'information de manière plus libre. Les communautés s'organisent en fait autour de l'open access, et on se rend compte que les humanités peuvent être très importantes. Le numérique peut être très important pour les humanités. Et les digital humanities arrivent donc en 2004, cette notion de digital humanities qui sera ensuite traduite en français par humanité numérique. Donc cette notion d'humanité numérique est créée dans les années 2000, ça n'aurait peut-être pu pas marcher, mais finalement, on se rend compte que les humanités numériques se sont transformées en vagues. Les critiques, des fois, parlent de déferlement des humanités numériques sur le monde universitaire, sur le monde de la recherche. Donc, en 2010, en tout cas, il y a un bon nombre d'auteurs qui disent que ce manifeste du That Camp de Paris de 2010 est en fait comme un renouveau. C'est un renouveau pour les humanités, c'est un renouveau pour le monde de la recherche. Et on se rend compte, bien sûr, qu'aujourd'hui, quand on fait une recherche sur Google, par exemple, on se retrouve avec beaucoup d'occurrences. On voit que le monde de la recherche a répondu, en fait, à cette notion d'humanité numérique. On fait de plus en plus de rencontres autour de cette notion. On produit de plus en plus de travaux aussi par rapport à cette notion-là. Et en fait, on se rend compte que toutes ces rencontres autour des humanités numériques répondent en fait à un besoin aussi de définition et un besoin de partage autour de cette nouvelle discipline, en fait, de cette nouvelle relation entre humanité et numérique. Donc, comme je vous l'ai dit, on a parlé de renouveau, et il y en a qui parlent aussi de révolution. Donc, c'est une révolution pour la manière de faire de la recherche, et même certains disent on ne peut pas laisser de côté les humanités numériques, parce que si on laisse le numérique de côté, les humanités vont devenir poussiéreuses. Donc il faut qu'on embrasse à bras le corps cette notion d'humanité numérique. Et hop, même les politiques encouragent cela. Donc François Hollande a dit en 2015, l'effort pour les humanités numériques devrait être non seulement maintenu, mais renforcé dans les années qui viennent. Donc, les chercheurs ont répondu à cette nouvelle notion d'humanité numérique, et forcément, il faut aussi, comme on l'a vu, il faut un cadre, et il faut aussi comprendre et apprendre qu'est-ce que sont les humanités numériques. Donc on a un développement exponentiel des formations. Après, comme on peut le remarquer, on n'en a pas partout, et ça aussi c'est un enjeu aussi pour aujourd'hui, c'est construire des formations pour pouvoir former les étudiants, les doctorants, même les chercheurs qui ne sont pas spécialistes de cela. Donc juste quelques exemples, on a une formation à l'École normale supérieure, à l'Université de Rouen, à l'Université de Rennes, et on a, par exemple, on n'a pas encore de formation dédiée, par exemple un master à Poitiers, mais on a déjà une école d'hiver, NXD, donc encoder, exploiter et diffuser. Voilà pour ça. Donc les humanités numériques, donc on l'a vu, c'est des outils, il y a énormément d'outils, mais c'est aussi la collaboration. La collaboration, parce que humanité numérique, déjà, dans le terme, c'est la relation en fait entre deux mondes. Donc il faut une collaboration. Et je citerai juste quelques exemples. Donc, la très grande infrastructure de recherche Humanum qui nous sera présentée tout à l'heure par Stéphane Pouillot. Donc ça, elle est là pour fournir des outils qui répondent aux exigences actuelles de la communauté des chercheurs en lettres SHS. et a été créé en 2013. On a le DATCamp, donc c'est une rencontre qui permet aux chercheurs, plutôt de manière informelle, en fait, d'échanger autour des humanités numériques. Et du côté anglophone, on a l'Alliance of Digital Humanities Organization. Et voilà des exemples d'outils. Alors, il y en a vraiment beaucoup parce que, comme on l'a vu encore, le monde de la recherche a embrassé cette vague des humanités numériques. Donc, on a des bases de données, des outils comme Zotero et Omeka. On a aussi DocExplore, par exemple, qui permet de voir la numérisation de manuscrits et donc d'avoir accès directement avec la source. Donc ça, c'est aussi une idée importante pour les humanités numériques. Et par exemple, on a aussi l'Atlas historique de la Nouvelle-Aquitaine qui nous sera présenté par Guillaume Bourgeois tout à l'heure. Donc voilà, juste un petit exemple de tous ces outils et de cette vague des humanités numériques dans le monde de la recherche. Alors, c'est très bien les outils, c'est très bien cette collaboration, mais finalement, qu'est-ce que ça apporte au monde de la recherche ? Donc rapidement, ça apporte une autre façon de faire de la recherche, donc faciliter l'analyse et l'accès aux résultats. Ce premier point, c'est aussi pour peut-être arriver plus facilement aux résultats et aller encore plus loin dans la recherche. L'outil du numérique va permettre ça, aller plus vite et finalement aller peut-être plus loin de ce qu'on aurait pu faire avec le papier finalement. Donc permettre une nouvelle approche. Selon William McCarthy, les outils numériques nous permettent de regarder d'un autre œil l'objet d'étude, de régler différemment notre focale d'observation et finalement de définir de nouveaux territoires à observer. Et ensuite, finalement, ça nous interroge sur la manière de faire les choses. Parce qu'on a un nouvel outil dans les mains, c'est une extension un peu de... Je vais peut-être parler d'intelligence ou en tout cas de quelque chose qu'on... C'est une extension du chercheur et qui amène à un changement de méthodologie. Deuxième point, c'est ça aide aussi à la diffusion du savoir. Parce que les outils ne sont pas juste là pour dépouiller des sources et pour avoir des résultats, mais aussi pour diffuser ces résultats, comme avec Hypothèse, Open Edition, etc. Donc le libre access qui a finalement amené cette révolution et cette notion de digital humanities. Donc ouverture déjà à un public non aguerri. Donc finalement, les chercheurs ne sont plus dans leur tour d'ivoire et ils peuvent partager au plus grand nombre leurs résultats. Ce qui permet aussi d'attirer l'attention et peut-être d'avoir plus de financement que si on était resté tout seul dans notre coin. Et ensuite, la mondialisation de la recherche, plus pour les chercheurs. Le chercheur va pouvoir avoir accès plus facilement à ce que les autres chercheurs ont fait et donc, par exemple, ne pas faire de redites ou construire sur quelque chose qui a déjà été fait. Ensuite, c'était les apports, mais il y a quand même certaines personnes qui se disent bon, il faut faire un peu attention, il faut un peu réfléchir, s'arrêter et réfléchir face à ce déferlement des humanités numériques. Alors, certains parlent de l'hypnose du numérique. C'est Thomas Boucher, Guillaume Carnino et François Jarige qui nous disent qu'il est absurde, voire dangereux, de remodeler le champ du savoir et les institutions à partir d'une étiquette floue. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, les humanités numériques, c'est des fois compliqué à prendre en main. L'université doit être réflexive, elle doit interroger son époque sans céder aux idéologies du moment. Donc là, ils sont un peu durs. Et ils en rajoutent en disant que finalement, des fois, de s'engouffrer dans les humanités numériques, c'est un peu opportuniste. Parce que, on le sait, des fois, la conjoncture aujourd'hui est un peu compliquée. Et donc les plus critiques disent que certains s'engouffrent là-dedans pour juste avoir des financements. Et au détriment, finalement, des plus petits projets qui n'impliquent pas forcément les humanités numériques, mais qui n'ont pas de, mais qui ont une valeur pour autant. Ensuite, on a parlé aussi de cette question peut-être de la déshumanisation de la recherche. Le risque du numérique, c'est que nos pratiques et notre façon de penser finissent par être déterminées par les outils. C'est Nicolas Carr qui dit ça. Donc le challenge des humanités numériques est de n'ignorer ni l'humain, ni le numérique. C'est vraiment cette frontière entre les deux qui est des fois difficile à tenir. Donc, mais tout le monde se met d'accord quand même pour dire que c'est le rôle humain qui doit être prépondérant si l'on veut tendre vers une évolution maîtrisée et raisonnée. Et il y a bien sûr cette difficulté, c'est ça qui fait la beauté en fait des humanités numériques, c'est la difficulté de la transdisciplinarité. C'est vrai que c'est parfois compliqué pour un chercheur d'expliquer vraiment ses besoins, à quel résultat il veut arriver. Moi, ça m'est arrivé personnellement. C'est compliqué en fait de trouver des mots en fait communs pour se faire comprendre et pour que la discussion aille dans un sens et dans l'autre. Donc ça, cette difficulté de la transdisciplinarité. Et des fois, certains ont dit que oui, c'était compliqué de trouver des fois un palier d'égalité en fait entre les deux, le chercheur et l'ingénieur. Hop. Donc pour terminer, donc les enjeux actuels maintenant de ces humanités numériques, donc il y en a d'autres, donc le premier, en lien avec ce que je viens de dire, c'est faciliter la collaboration entre deux mondes très différents. Donc Frédéric Darbellay a dit « Le succès des Digital Humanities résidera sans doute dans la prise en compte de la diversité des disciplines et leur mise en dialogue tout en évitant le double écueil du fétichisme technologique et inversement du conservatisme disciplinaire. » Et cette collaboration, elle passe par la formation. Parce que si on est formé, si on intègre tout ce vocabulaire, ne serait-ce que ce vocabulaire technique, en tout cas pour les chercheurs, et aussi les ingénieurs, sera aussi sûrement, je ne sais pas si ça existe, mais ce serait aussi intéressant pour les ingénieurs de faire peut-être des formations en humanité pour mieux comprendre le monde des humanités. Donc un des enjeux aussi, c'est proposer un plus large éventail de formations. Donc ça implique énormément de questionnements. Qu'est-ce qu'on apprend aux étudiants, quels outils on utilise, et ça c'est Thierry Sozo aussi qui va nous en parler. Et ensuite, dernièrement, cette réflexion sur les humanités numériques. Je termine. Hop. Donc les humanités numériques doivent développer une réflexion sur la façon dont les outils numériques changent la recherche en sciences humaines, mais aussi mettre en place une recherche théorique sur ce qu'est le numérique lui-même. Et l'enjeu aujourd'hui, ce n'est plus de prouver l'utilité des nouvelles technologies, mais de normaliser afin que les méthodes et les résultats des recherches puissent être fiables, partagés, pérennisés sur le long terme. Donc on a aujourd'hui, en réponse à ce besoin de réflexion sur les humanités numériques, par exemple, on a Pierre Mounier qui a écrit un ouvrage, Les humanités numériques, une histoire critique. Donc on n'embrasse plus forcément à bras le corps sans pousser la réflexion sur les humanités numériques, mais on essaye de justement s'asseoir et réfléchir sur ce que c'est vraiment et sur tout ce que ça peut impliquer finalement. Et oui, pour terminer, c'est la fin cette fois-ci, se poser la question du futur des humanités numériques. Et est-ce que ce futur, c'est la disparition en fait, de cette notion avec l'intégration totale du numérique sans distinction dans la recherche ? Donc voilà. Et donc, on va rester dans le présent aujourd'hui. Et je vais donc appeler Stéphane Pouillot qui va nous présenter un petit peu l'infrastructure Humanum, qui est très importante pour les humanités numériques en France.
Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir convié à cette journée sur les humanités numériques. J'ai le plaisir de pouvoir devant vous présenter la très grande infrastructure de recherche pour les humanités numériques, ou des humanités numériques. je vais donc c'est une nouvelle présentation. On la refait une fois par an, en fait, en gros, une autre présentation, parce que, comme ça a été dit un petit peu tout à l'heure, c'est un domaine qui évolue, les humanités numériques. C'est un champ, une transdiscipline, où on l'appelle comme on veut, mais c'est un domaine où il y a beaucoup d'évolution et où les besoins sont guidés par les enseignants-chercheurs, par de plus en plus d'ailleurs de doctorants qui font appel à Humanum pour leur thèse. Et donc on suit l'évolution des pratiques des communautés lettres et sciences humaines et sociales. Et donc c'est pour ça que là, je vais inaugurer devant vous, on est en janvier, la nouvelle présentation qui est un peu différente de celle des autres années. Donc en fait, Humanum, c'est ce qu'on pourrait appeler une infrastructure pour faire de la recherche. On le définit de plus en plus de cette façon parce que finalement, les humanités numériques, du point de vue des pratiques de recherche dans les communautés des lettres et sciences humaines et sociales, les humanités numériques, c'est avant tout faire de la recherche en lettres et sciences humaines et sociales avec des outils. Ces outils, soit on les forge soi-même, soit on les acquiert, on les critique, on les fait évoluer. Et derrière ces outils, il y a des données qu'on traite. Donc en fait, c'est faire de la recherche, hein, tout simplement. C'est en ça que le Humanum, vous le verrez tout au long de la présentation, Humanum a pour mission, j'ai envie de dire comme fil rouge, mais comme mission principale, d'accompagner les process de recherche et donc d'évoluer au fur et à mesure que les process de recherche se transforment. Alors il y a des disciplines où ils se transforment très très vite, il y en a où c'est plus lent, et on va essayer donc d'accompagner ces process de recherche à la vitesse où ils doivent se dérouler. Donc on part du principe que notre infrastructure, c'est une infrastructure avant tout pour faire de la recherche. Alors ça a été dit tout à l'heure, évidemment, il y a une longue tradition hein, dans les lettres et sciences humaines et sociales de relations entre l'homme et la machine, j'ai envie de dire. C'est passé par plusieurs étapes. Je n'ai pas complètement la même lecture que ma voisine, mais elle est à peu près, c'est à peu près ça. Ce qui est très important de noter, c'est que dans l'histoire qu'on pourrait appeler des humanités numériques, même si évidemment c'est une notion qui est assez récente et qui a eu plein de nominations différentes, en particulier dans les années 80, et plein de domaines où en fait il y a eu un dialogue ou un rapport entre l'homme et la machine pour faire de la recherche en lettres et sciences humaines et sociales. Ce qui est très important de bien voir, c'est que cette tradition d'utiliser des outils ou de forger des outils pour traiter de la donnée, en fait, hein, quand cette donnée a commencé à être d'abord électronique, puis informatique, puis maintenant on l'appelle numérique. Cette tradition de dialogue, en fait, ça a toujours existé. Ça a existé dans quasiment toutes les disciplines des lettres et sciences humaines et sociales. Même si on ne le voit pas, même si dans l'historiographie, c'est quelque chose qui est passé un peu sous silence. Mais il y a toujours eu ce dialogue-là. Et ce qui est très intéressant, et c'est une partie du travail que l'on fait à Humanum, c'est qu'on regarde toujours dans le rétroviseur pour voir quelles ont été les pratiques anciennes des communautés, des disciplines, des lettres et sciences humaines et sociales. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on héberge, par exemple, à Humanum, des corpus qui ont été informatisés au milieu des années 70, par exemple en archéologie, et qui ont migré de dispositif en dispositif, de système en système, de logiciel en logiciel, pour nous arriver à Humanum aujourd'hui. En fait. Alors évidemment, comme on regarde dans le rétroviseur, on sait bien qu'ils ne sont que de passage, ces données à Humanum, et qu'ils seront sans doute repris. Potentiellement dans 20, dans 50 ans, dans 100 ans. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder les ruptures de charge qui ont pu avoir lieu au cours de cette histoire des humanités numériques sur le plan des données. Hein, les données que nous hébergeons, hein, les plus anciennes à Humanum, elles datent des années 30 parce qu'elles ont été photographiées dans les années 30, puis microfilmées, puis retravaillées, puis renumérisées à partir du microfilm, 3 à 4 fois dans les années 80, 90 et 2000. Et donc, elle nous arrive aujourd'hui. Donc c'est toujours intéressant de regarder dans le rétroviseur parce qu'on voit qu'il y a des pratiques. On analyse ces pratiques et on regarde comment les gens travaillent. Et on va en tenir compte quand on va développer des outils. Donc il y a quelques enjeux dans les humanités numériques, et en particulier quand on passe les humanités numériques dans la cible d'en faire une infrastructure pour faire de la recherche, c'est que les humanités numériques, quelque part, ça redéfinit le travail collectif autour des données. On ne travaille pas de la même façon quand on est seul en archive ou quand on est seul en bibliothèque ou quand on est dans son laboratoire avec quelques collègues d'un programme de recherche qui va avoir 150 personnes aux quatre coins du monde avec des archives qu'on va devoir fédérer qui vont arriver de centaines de dépôts d'archives en Europe ou dans le monde. On ne travaille pas de la même façon. Donc le numérique redéfinit un tout petit peu la façon dont on va travailler collectivement. Sur... Je ne sais pas si on prend des questions, mais... Il y a un certain nombre de tensions aussi qui apparaissent entre un peu des pratiques historiques, ça a été dit par ma voisine tout à l'heure, et puis des pratiques du numérique. Et puis, il y a un besoin qui est toujours sous-jacent et qui n'est pas forcément bien maîtrisé hein, dans les programmes de recherche, qui est le besoin de stabilité. Alors, quand je dis besoin de stabilité... Ce n'est pas uniquement le besoin de figer des outils et leur fonctionnement, parce que ça, on sait que c'est assez... Bon, d'abord, c'est d'abord impossible à faire technologiquement parlant, mais au-delà de ça, ça serait assez préoccupant, parce que ça voudrait dire que les pratiques sont figées. Donc les outils ont besoin d'évoluer. Mais par contre, dans l'accès aux données, dans l'accès aux technologies pour les comprendre et donc les critiquer, hein, ce qui a été dit, c'est important de pouvoir avoir quelques points fixes sur lequel on peut s'appuyer. C'est-à-dire qu'il faut à la fois des points fixes qui ne bougent pas trop, parce que comme tout le reste bouge, on a besoin de s'ancrer un petit peu dans ces aspects-là. Donc voilà, c'est quelques enjeux volontairement pris par nous pour justement, en contrepoint, apporter une réflexion et des outils autour de ces questions-là. Je donnerai deux conseils de lecture, en particulier pour les doctorants qui démarrent. Hein. Pour moi, il y a plein d'ouvrages sur les humanités numériques. Vous pouvez lire beaucoup de choses. Moi, je retiens ces deux-là. Donc le dernier livre de Pierre Mounier, qui est une synthèse de ses interventions sur les humanités numériques, qui est vraiment un ouvrage... Aujourd'hui, quand on s'intéresse à ces questions, démarrer par les humanités numériques de Pierre Mounier, c'est une bonne solution. Et puis, en contrepoint, un livre qui a un petit peu plus d'années maintenant, qui est de 2008, qui est la leçon inaugurale de Gérard Berry au Collège de France, « Pourquoi et comment le monde devient numérique ?». C'est une leçon inaugurale qui est assez intéressante à lire en regard de ce qu'il y a aujourd'hui, parce que même si elle n'est pas centrée sur les humanités numériques, elle dit beaucoup de choses de la façon dont le monde est devenu numérique et dont toute une partie de la donnée aujourd'hui voyage par électricité dans des câbles ou par des ondes. Et ces deux ouvrages à consulter, alors évidemment entre les deux il y a eu le ZADCamp, il y a eu beaucoup de choses. Il y a un autre ouvrage que je pourrais citer qui n'est pas sur ma diapo, qui est un livre de Benoît Habert sur « Construire les bases de données pour le français », qui est quasiment un manuel de compréhension et d'analyse de la donnée en lettres et sciences humaines et sociales, qui est aussi un ouvrage que vous pouvez consulter. On le trouve assez facilement en bibliothèque. Voilà. Donc ça, c'est quelques conseils de lecture pour s'ancrer quelques idées. Alors à Humanum, on a en gros trois grandes missions. Une mission qui est de l'accompagner l'évolution, évidemment, des communautés SHS, lettres et sciences humaines et sociales au sens large, dans le contexte numérique et dans celui de la science ouverte. C'est outiller les programmes de recherche. Et au-delà de l'outillage, une grande partie du travail que l'on réalise à Humanum, c'est de conseiller d'interconnecter les initiatives de recherche. Hein, on passe à peu près la moitié de notre temps, non pas à développer des outils, non pas à les mettre à disposition des communautés, mais à dire aux communautés, dans votre programme de recherche, vous savez que vous avez d'autres collègues qui sont ici en France ou ailleurs dans le monde qui font à peu près la même chose que vous. Est-ce que vous êtes en contact? Oui, non. Et si non, on peut faire le petit bout de réseau social qui manque, comme on dirait, pour vous mettre en contact. Parce que là, et ça se fait de plus en plus au niveau international d'ailleurs, parce qu'il y a des programmes à 2020, des choses comme ça, interconnecter les initiatives de recherche, ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est très important dans le domaine des sciences, du rapport entre sciences humaines et sociales et informatique et numérique, parce que ça décloisonne un petit peu les programmes de recherche, et donc ça permet aux gens d'être moins seuls face à des questionnements, face à l'appréhension de la technique pour améliorer le traitement de leurs données. Puis on a une troisième mission, c'est de participer à la construction des infrastructures internationales et donc de faire monter de plus en plus les communautés nationales françaises dans ces infrastructures internationales. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait sur le très long terme, parce que faire des humanités numériques au niveau européen ou au niveau international, c'est forcément des temps très longs, les pratiques entre les pays, les structures de l'enseignement supérieur et de la recherche entre les pays n'étant pas évidemment les mêmes suivant les différents pays. Alors, on a une trajectoire pour vous donner une vision un tout petit peu historique de où est-ce qu'on vient et d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va. Donc, Humanum, c'est la fusion de deux infrastructures qui préexistaient, qui ont été créées au milieu des années 2000, un petit peu au moment où les humanités numériques ont pris un petit peu leur envol, qui elles-mêmes sont les héritières de dispositifs qui ont été créés par le CNRS en particulier au milieu des années 90 et qui reprenaient, etc. Donc d'où une certaine histoire. Mais en gros, Humanum a démarré en 2013 avec la fusion de deux dispositifs, une période assez longue de stabilisation. Donc vous verrez tout à l'heure les résultats. Donc ça a consisté à une première feuille de route 2013-2017. On a fait une année de bilan en 2018. On a eu un très gros audit de la Cour des comptes, plus deux audits du CNRS et un audit du ministère sur le plan scientifique. Donc ça, c'était l'année 2018, une espèce d'année de transition. Et puis là, on est reparti donc sur une feuille de route 2019-2023 où on va aller vers plus d'internationalisation, de meilleures appropriations par les programmes de recherche. Et puis ensuite, on reprendra le cycle de l'évolution de nos services, etc. Donc il y a un cadre national pour Humanum, mais comme toutes les infrastructures de recherche, on est ce qu'on appelle les TGIR, les très grandes infrastructures de recherche, un label donné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui donne une certaine garantie de pérennité à notre dispositif, puisque comme vous l'avez vu à la diapo précédente, on a des cycles de 5 ans, en fait. Mais en gros, ces cycles de 5 ans sont automatiquement renouvelés à partir du moment où on est capable de montrer que des communautés de recherche, les lettres et sciences humaines et sociales, ont besoin d'une infrastructure. Une infrastructure, on la maintient tant que les gens en ont besoin. Le jour où les gens n'ont plus besoin, on l'arrête. Voilà. Donc il y a ce label qui est donné par le ministère. On est inscrit depuis 2013 sur la feuille de route nationale des infrastructures de recherche, au même titre que les grands télescopes, les flottes océanographiques, etc. Aussi, dans le cadre national, c'est celui du plan national pour la science ouverte, de décloisonnement des données scientifiques. Je vous ai mis le site web que je vous invite à consulter, dans lequel vous aurez accès au plan national. Et donc nous, les services que l'on déploie à Humanum s'inscrivent dans ce cadre de la science ouverte, de donner accès, de valoriser l'accès à l'information scientifique et technique. Il y a un cadre européen de notre travail, de notre infrastructure, c'est celui de ce qu'on appelle la feuille de route ESFRI, dans lequel vous trouverez en fait trois dispositifs européens dans lesquels nous travaillons, qui sont en fait des réseaux d'infrastructures, Daria, Clarine et Opéra, qui est en cours de fabrication, qui regroupent, suivant les différentes soit disciplines, soit les différents types d'acteurs des lettres et sciences humaines et sociales, qui regroupent des infrastructures sœurs d'Humanum au niveau européen. Donc on a des instances, une équipe et une direction bicéphale, technique et scientifique qui anime la TGIR, un comité de pilotage, qui est une sorte de comité exécutif qui vote notre budget, qui est composé des tutelles, du ministère de la Culture aussi, qu'on a rajouté en 2013, et puis d'un conseil scientifique qui nous guide et qui nous aide et qui fait les évaluations de nos différentes structures. Je vais vite. Donc Humanum est organisé autour de ce qu'on pourrait appeler le programme de recherche. Ce qui nous intéresse à Humanum, c'est d'aider les enseignants-chercheurs, les doctorants aussi, à développer des programmes de recherche et de les développer avec une palette d'accès à des communautés, d'outils et de réseaux internationaux. Enfin, je vais les décrire tout à l'heure. Donc en termes de communauté, autour de l'infrastructure Humanum, en fait, il y a un peu plus de 600 projets de recherche en France qui utilisent soit nos services, soit qui travaillent avec nous. Voilà. Alors quand je dis un peu plus de 600, on a du mal à chiffrer, parce qu'il faudrait faire une typologie en fait, de ces projets-là. Mais voilà, c'est entre 600 et 700 projets qui bénéficient en fait, de l'accès à notre infrastructure. Voilà. Il y a un double réseau, hein, un réseau disciplinaire, je vais en dire un mot, les consortiums du Manum, un réseau géographique, puisqu'on a des relais dans les maisons des sciences de l'homme en région. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les communautés qui travaillent avec Humanum sont toujours constituées de la même façon, et elles sont très représentatives des humanités numériques, puisqu'elles sont composées de chercheurs, d'ingénieurs, d'archivistes, de documentalistes, qui sont d'ailleurs pas forcément dans le domaine des laboratoires, des équipes d'accueil, de l'université. Il peut y avoir des gens qui viennent des bibliothèques, de la lecture publique, hein, bibliothèque municipale, archives départementales, etc., hein, archives nationales. Et donc, qui se mettent à travailler ensemble autour d'un projet de recherche. Voilà. Donc, c'est assez représentatif, nos communautés utilisatrices, de ce qu'on pourrait appeler les humanités numériques. On est donc aussi une infrastructure qui est localisée à Paris et à Lyon. On a deux partenaires historiques, le centre de calcul de l'IN2P3 du CNRS et le CINES, qui est donc le centre de calcul est à Lyon et le CINES est à Montpellier. Alors, c'est deux partenaires très importants. Ça fait une petite dizaine d'années qu'on travaille avec eux, donc on a une certaine stabilité de fonctionnement avec eux. Et pour le centre de calcul de l'IN2P3, qui héberge en fait toute notre infrastructure, nos machines, en fait, en gros, nos serveurs, dont vous voyez la photo là, héberge également trois de nos collègues qui travaillent dans les locaux du centre de calcul. Donc on a des bureaux Humanum dans ce centre de calcul depuis 2013. Et ça, c'est très important pour nous parce que du coup, on est allé installer notre dispositif technologique là où il y avait des gens qui savaient faire ça depuis une quarantaine d'années, en fait. Voilà. Le métier de digital humaniste, si on pourrait l'appeler comme ça, même si ça n'existe pas complètement, le métier que l'on fait, c'est pas forcément de faire de la bonne électricité, du bon froid pour refroidir nos machines. Donc, plutôt que d'essayer de tout reconstruire de notre coin, on a essayé d'aller là où les gens savaient le faire bien mieux que nous et d'apprendre avec eux. Donc c'est pour ça que depuis 2013, une partie de notre équipe est installée à Lyon, au centre de calcul. Donc on a un budget de 2,3 millions d'euros par an et on est constitué sous la forme d'une unité mixte de services du CNRS, d'Aix-Marseille Université et du campus Condorcet. Qui est composé d'une quinzaine de personnes en ce moment. Donc, on est aussi au cœur d'un ce qu'on pourrait appeler un réseau international, puisqu'on participe à trois dispositifs européens, je les ai cités tout à l'heure. On copilote quatre programmes H2020 sur les infrastructures. Donc là, c'est des programmes de recherche dédiés aux infrastructures sur lesquels on va faire de la recherche et développement qui vont en fait designer les futurs services que vous utiliserez peut-être pour vos programmes de recherche. On participe à un grand projet européen qui s'appelle l'EOSC et qui est un projet de mise en d'interconnexion de tous les dispositifs d'enseignement supérieur, recherche numérique au niveau européen. Et puis on a des collaborations bilatérales avec des infrastructures sœurs dans les pays. Hein. Donc en particulier en Argentine avec le CONICET, en particulier avec le Canada, avec la cyberinfrastructure. Dans lequel, par exemple, avec le Canada, nous sommes en train de co-développer des outils. Hein. Donc c'est des collaborations qui sont assez poussées, puisqu'on co-réalise des outils avec le Canada. On co-anime des programmes de recherche. Programme de recherche qu'on a démarré au mois d'octobre dernier avec le Canada, avec la cyberinfrastructure canadienne, qui est notre infrastructure sœur au Canada, autour du logiciel OJS qui est fourni par PKP. Peut-être que certains qui animent des revues connaissent cet outil-là. Donc, un mot sur les communautés plus précis. Donc, on anime ce qu'on appelle des consortiums, qui sont des groupements d'équipes, hein, des groupements de chercheurs, de documentalistes, de bibliothécaires, d'archivistes. Il y a des doctorants aussi hein, dedans, à qui on donne des missions de formation d'expertise sur les données en sciences humaines et sociales, qui créent des services et qui surtout écrivent des guides de bonne pratique dans leur discipline. Hein. Donc ça, c'est on va dire, une politique bottom-up où on va aller chercher dans les communautés les façons dont elles travaillent pour ensuite irriguer l'ensemble des communautés. Alors, quelques exemples de réalisation des consortiums pour vous faire une idée. Par exemple, là, on a plusieurs consortiums du Manum qui se sont mis ensemble pour écrire un guide juridique et éthique dans la diffusion des données en sciences humaines et sociales. Il a été publié aux presses universitaires de Marseille et il est disponible dans quelques semaines sur la plateforme Open Edition Books. Des exemples de réalisation, une plateforme communautaire de transcription en ligne d'archives et de matériaux de terrain en anthropologie et ethnologie. Hein, donc ça, c'est une plateforme qui marche très bien, qui fonctionne avec le logiciel Omeka et qui fait des petits. C'est-à-dire que cette initiative-là qui est née dans une discipline, parce qu'elle est hébergée à Humanum, en fait, eh bien, on la montre à d'autres disciplines qui s'en emparent et qui vont ensuite développer leur propre dispositif. Un autre exemple avec le consortium Cahier, hein, beaucoup de formations sur les différentes méthodologies ou techniques de traitement des données en lettres et sciences humaines. Dernier exemple, un outil alors ça c'est un outil très important qui a priori tout le monde nous disait il y a quelques années que ça existait, mais en fait on s'est rendu compte que ça n'existait pas. C'est un outil pour faire de l'archivage de la 3D. Dans les communautés de l'histoire, de l'archéologie, etc. La 3D est devenue un outil majeur, hein, en particulier dans tout ce qui est la gestion du patrimoine. Et on n'était pas capable de faire de l'archivage de données 3D. C'est-à-dire qu'on faisait de la 3D, à chaque fois qu'on changeait de scanner 3D, ben on refaisait les données parce qu'on ne savait pas les conserver. Voilà, maintenant, on sait les conserver. On a mis beaucoup de moyens dans les communautés de recherche. Une trentaine de laboratoires se sont associés pour développer une plateforme d'archivage des données 3D, ce qui permet à l'INRAP, à d'autres acteurs, de pouvoir faire de l'archivage des données 3D. Alors ça, c'est très important sur le plan du patrimoine et de la recherche, parce que, par exemple, on est capable aujourd'hui d'archiver les données 3D qui ont été faites sur le temple de Bel en Syrie il y a une vingtaine d'années. Ce temple a été détruit par Daesh. Si un jour on veut reconstruire le temple de Bel, on sait le faire avec des robots qui taillent la pierre, etc. Mais on a les modèles 3D, on est capable de conserver ces modèles 3D qui ont été faits il y a 20 ans. Voilà. Et ça, c'est sur le plan du patrimoine, ça a des données qui ont été faites dans un contexte de recherche il y a 20 ans, prennent une autre dimension aujourd'hui quand on est capable de les conserver. Donc il y a 8 consortiums hein, qui regroupent environ 80 équipes de recherche en France, qui font beaucoup de formations, d'ateliers, de séminaires. Et le financement de ces 8 consortiums, ça représente entre 40 et 50% du budget que vous avez vu tout à l'heure là, de la TJR, parce que nous, on va financer évidemment leurs actions. Voilà, donc ça, c'est la liste des 8 consortiums qui sont actuellement actifs. Pour y revenir, on a des relais donc dans les maisons des sciences de l'homme. De plus en plus, les consortiums, qui est plutôt donc une structuration disciplinaire, comme vous avez pu le voir, sont en train de s'ancrer dans les maisons des sciences de l'homme. Ça permet de faire des bons relais une fois que le consortium est terminé, de pouvoir continuer le travail, parce que là, on a des points fixes dans les 20-21 maisons des sciences de l'homme qui sont en France. Et donc, les maisons, avec notre aide, développent des relais et font, par exemple, de l'assistance pour les projets localement. Hein, ça, c'est important de le dire. Il y a des maisons des sciences de l'homme dans lesquelles vous avez des ingénieurs qui sont formés au service du Manum et qui sont localement capables d'accompagner les projets sans forcément que le projet remonte, on va dire, à la cellule centrale de la TJR. Bon, là, c'est le cas. J'ai pris l'exemple de la maison des sciences de l'homme en Bretagne avec notre collègue Morgane qui est ingénieur d'études là-bas et qui est capable d'ouvrir des accès sur notre dispositif de stockage pour les projets de bretons. Voilà. Donc c'est assez intéressant de pouvoir décentraliser un petit peu l'accès. Donc sur l'infrastructure, plus centrée sur les outils et les données numériques, donc on a une infrastructure de services qui est organisée en 6 grands pôles autour de la donnée de la recherche. Alors, je définis rapidement données de la recherche hein, dans le contexte Humanum. Hein, c'est en gros tous les fichiers que vous utilisez pour faire de la recherche. Hein. Ça va être tout simplement des bases de données, des images, des données sérielles, des fichiers XML de corpus, des tableaux Excel, enfin, bon, etc. Tout type de données dans lequel vous mettez de la science, en fait. Hein, voilà. Soyons clairs. Donc nos services sont organisés comme ça. À gauche, vous avez des services qui sont très génériques, des services de stockage, de traitement de la donnée, de diffusion très rapide de la donnée. Et puis à droite, des services un peu plus à valeur ajoutée, où là, on va vous demander, on ne va pas vous laisser forcément complètement libre dans ces services-là. On va vous demander, par exemple, de mettre des bonnes métadonnées, de rendre accessibles vos données, de préparer l'archivage à long terme de vos données, etc. Donc à gauche, bah, c'est un dispositif d'accueil immédiat. À droite, il faut travailler un peu plus ces données pour pouvoir accéder à ça. Alors, en fait, on a une stratégie hein, pour les programmes de recherche. C'est qu'on sait que les programmes de recherche, aujourd'hui, ils fonctionnent par période. D'accord ? Un programme de recherche a un bout de financement ANR à un moment donné, puis ça s'arrête. Et puis, 4 ans après, il y a un programme ERC qui arrive ou une autre ANR, etc. Et on va de projet en projet comme ça. Par contre, on sait donc qu'entre les projets financés, où là, vous avez les moyens de construire des outils, bah souvent, il y a des périodes de disette et on a besoin de faire le lien. Et Humanum accompagne en fait les programmes de recherche dans cette logique hein, de fragmentation de la recherche où on va être capable de conserver, par exemple, des données au chaud en attendant que vous ayez un prochain projet dans lequel vous créerez, par exemple, un outil de traitement. Hein, voilà. Donc ça, c'est très important. On fait beaucoup d'expertise avec les projets en amont hein, de leur demande de financement. Pour pouvoir anticiper un petit peu ces intervalles. On fait pas mal de curation de données, on en fait avec des très gros laboratoires, justement pour anticiper ces intervalles, pour préparer, on va dire, une sorte d'endormissement des données de façon correcte pour pouvoir un jour les réveiller. Hein. Donc ça se prépare, ça se travaille. Et ça se travaille souvent en amont des projets, c'est-à-dire que souvent on a des collègues qui viennent nous voir à la fin de leur projet ANR avec une base de données FileMaker, ou une base de données qu'ils ont produite comme ça dans leur programme ANR et qui nous dit est-ce que vous pouvez la conserver. Alors plus ils nous le disent tardivement, moins on sait la conserver. Par contre, s'ils nous le disent au début, on va leur donner les bons outils, on va leur donner les bonnes méthodes de modélisation de données, et à la fin ça va se faire quasiment sans douleur, ils s'en apercevront quasiment même pas hein. Donc d'où la notion d'anticiper les intervalles. Et donc la pérennisation, ça se prépare dès le début des projets de recherche. Et donc vous verrez, on a un dispositif d'accompagnement de cette séquence-là. Alors, on a une trajectoire d'accompagnement aussi. Vous l'avez vu tout à l'heure, je l'ai un petit peu dit sur l'organisation de nos 6 grands services, où en fait, suivant l'avancement de votre projet de recherche, on va pouvoir vous accompagner en montée en charge et en montée en qualité de vos données. En gros, le type de service stocké, traité et diffusé, le 1 et le 2, en fait, ça, c'est des choses que vous pouvez avoir en standard à Humanum, en gros, sous 24 heures. C'est le temps de réponse moyen qu'on a quand on demande des ouvertures de services chez nous. Donc, ces deux premiers niveaux, hein, ça se lit de gauche à droite, ces deux premiers niveaux, en fait, vous les avoir tout de suite, mais ils ne sont pas forcément dans des dispositions de bonne pratique. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, numériser un corpus, l'encoder, le mettre dans un site web et l'abandonner sur un serveur d'Humanum, est-ce que c'est une bonne pratique ? Pas forcément. D'accord ? Pas forcément. Par contre, au milieu de votre projet de recherche, prendre conscience que les données que vous êtes en train d'encoder, ben, il faudrait peut-être les déposer quelque part. Peut-être avoir des référentiels scientifiques sur lesquels s'appuyer pour permettre leur archivage à long terme, etc. Bah, ça se prépare et ça s'organise dans le projet de recherche. Et c'est pour ça qu'on a ce système un peu progressif où, en fait, on va être capable de vous accueillir très rapidement sur vos besoins du début de projet et petit à petit vous accompagner pour monter en qualité. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de doctorants dans la salle, j'invite les doctorants à se préoccuper de ces questions-là dès leur thèse et à contacter Humanum pour les données de votre thèse, telles qu'elles soient. Parce qu'au-delà du traitement de vos données, au-delà du stockage de vos données, je vais en dire un mot tout à l'heure, commencer à préparer l'après-thèse au moment où on démarre ou au milieu de sa thèse, c'est très important. Et on a aujourd'hui à Humanum des « success stories » entre guillemets de thésards qui ont travaillé avec nous, qui nous ont posé des questions, qui nous ont fait réfléchir sur nos services, qui les ont utilisés et qui sont aujourd'hui recrutés, chercheurs ou maîtres de conférences, et qui continuent à utiliser Humanum et qui sont complètement dans ces bonnes pratiques-là. D'accord ? Donc en matière de formation, je crois que j'ai dit tout à l'heure, en matière de formation, on croit beaucoup, nous, à une progressivité dans l'appropriation en fait, des technologies je dirais en reprenant la maxime d'une célèbre chaîne de fast-food, c'est qu'au début, c'est venez comme vous êtes, et puis petit à petit, on progresse, et en fait, vous progressez, hein, en s'appuyant sur des services qui vous permettent une montée en qualité. Donc, quelques chiffres, hein, sur Humanum, en termes de stockage, aujourd'hui, on stocke à peu près 1,2 pétaoctets, donc 1200 téraoctets de données. Alors c'est très peu par rapport aux grands systèmes de stockage, évidemment, des autres disciplines, mais c'est beaucoup pour les sciences humaines et sociales. On a une capacité de stockage de 2 péta, 5, 3 péta maintenant, à peu près. Un peu plus de 200 serveurs, machines virtuelles qui sont consacrées aux communautés de recherche. Un peu plus de 2000 comptes utilisateurs dans notre plus gros système de stockage. Et je crois qu'il y a eu une journée Omeka hier, ici. C'est ça. Juste à titre d'information, je l'ai glissé là juste avant de venir. On héberge 164 CMS Omeka sur l'infrastructure, voilà, qu'on copilote. Voilà. Bon, là, c'est quelques chiffres pour vous donner des ordres de grandeur. On a une documentation, une base de connaissances en ligne, hein, dans laquelle vous avez à la fois des formes de questions-réponses, hein, d'une FAQ, avec des questions à la fois très techniques, puis des questions comme ça. C'est-à-dire des questions pour vous donner envie de travailler avec nos outils. Alors, je vais balayer rapidement. Dans chacun des services, on a plusieurs outils, en fait, hein, qui sont mis à disposition. Et en gros, chaque année, on en rajoute parce que là aussi, on suit l'évolution des outils qui sont soit forgés dans les communautés, soit qui sont fabriqués par des éditeurs de logiciels. Alors, en termes de stockage, on offre principalement deux dispositifs de stockage, ce qu'on appelle un stockage et une mise en sécurité des données, ça s'appelle la Humanum Box, et puis un dispositif qui s'appelle Sherdoc, qui est un stockage outillé pour les sciences humaines et sociales. Et vous allez voir dans la présentation que je vais faire des deux, que ça correspond à deux états, à deux besoins différents, typiquement dans le cadre de d'un doctorat. Donc, Humanum Box, c'est une armoire, en fait, hein, qui permet de stocker des données. Ça facilite le stockage, la sauvegarde. Ça permet de mettre hors les murs, hors de son ordinateur, de la donnée, hors de son laboratoire, de la donnée. Donc il y a deux modes d'accès à ce dispositif. Soit on est capable d'utiliser un petit logiciel client comme Filezilla pour faire du FTP sur la Humanum Box. Mais aussi, on est capable aujourd'hui de monter la Humanum Box comme un disque virtuel sur son bureau, hein. Donc de son poste Windows ou Mac, hein, vous avez un disque et puis vous pouvez glisser vos données dedans. Voilà. L'avantage de monter un disque et l'avantage d'être dans un réseau d'infrastructures nationales, voire internationales, c'est qu'en fait, le disque que vous avez sur votre bureau, il est accessible de partout dans le monde. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être dans votre labo, d'être en France, d'être... c'est une connexion sécurisée VPN entre votre ordinateur et le réseau des Humanum Box. Comme ça, vous l'avez toujours à portée de la main. On a plusieurs politiques de sécurisation. Là, je ne rentre pas dans les détails. Ça dépend de votre programme de recherche, de ce que vous voulez faire, etc. Ça se discute avec nous au moment où vous accédez au service. Et puis, on fait tout un tas de contrôles d'intégrité de la donnée pour pouvoir vous rendre les données le jour où vous en avez besoin. Alors, un des aspects qui est important dans la Humanum Box, c'est qu'il y a plusieurs points de présence en France. Il y en a 8 aujourd'hui qui fonctionnent. Et ça, c'est très important parce qu'on croit beaucoup au rapprochement de la donnée et du traitement de la donnée. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne sert à rien de mettre des données dans le cloud, comme on dirait vulgairement, pour les mettre quelque part et ensuite avoir besoin de la récupérer tout le temps pour pouvoir la traiter dans son logiciel local. Ça, on sait que ça ne marche pas. Ça marche sur des tout petits volumes de données, mais ça ne marche pas sur plusieurs téraoctets. Alors, d'où l'idée de pouvoir avoir en fait un réseau de stockage, ce qui est le cas de la Humanum Box, en fait, pour pouvoir rapprocher le stockage de la donnée de là où se fait le traitement, alors scientifique, documentaire, transformation, etc. Typiquement, un chercheur qui va être à Toulouse, par exemple, va pouvoir stocker ses données dans la Humanum Box qui est localisée à Toulouse. Comme ça, il a une proximité, il est dans son réseau local. Il n'a pas besoin de la stocker à Lyon, il n'a pas besoin de la stocker à Nice, etc. Voilà. Donc on a sur la Human Inbox un stockage qui est quasi illimité. En fait, on rajoute au fur et à mesure que ça augmente. Nous, c'est nous qui prenons en charge les coûts de, le, les coûts de stockage, ce qui fait que c'est gratuit pour les communautés. Et aujourd'hui, c'est à peu près donc 400 tera, un peu plus de 400 teraoctets de données. Autre service, ShareDoc. Donc ça, c'est un stockage par le web. C'est une sorte de Dropbox, mais installé sur les serveurs du Manum. Donc ça, ça a l'avantage de, d'être utilisable comme Dropbox. Sauf que vous savez où sont les données. Elles sont à Lyon, sur des serveurs de l'enseignement supérieur. Voilà. Alors, dans ShareDoc, ce qui est intéressant, c'est qu'on... Donc, ShareDoc, ça ressemble à ça. Hein, c'est une interface par le web. Ou alors, vous pouvez la voir aussi par, par des outils de type outils WebDAV, il y a OnCloud, etc., qui peuvent se connecter et faire de la synchro entre votre ordinateur et ShareDoc. Mais grosso modo, ça se passe dans une interface comme ça. Alors, ça ressemble à ça. Vous pouvez gérer votre communauté d'utilisateurs de votre projet de recherche à l'intérieur, hein, rajouter des gens, de donner des niveaux d'autorisation, etc. Vous avez des outils d'édition comme de type Google Doc à l'intérieur. Vous allez pouvoir éditer, là, par exemple, un papier. C'est mon compte à moi, en fait, là, que vous voyez. Donc, j'avais fait un papier avec un collègue pour un colloque. On peut l'éditer directement à l'intérieur de ShareDoc sans le rapatrier sur sa machine. Voilà. Alors, il y a des outils. Ce qui est intéressant dans ShareDoc, c'est qu'on branche des outils de traitement de la donnée. Typiquement, des outils de transcodage, audio, vidéo, texte, images. Et là, typiquement, je vous montre le résultat. J'avais une vidéo dans un format. Je voulais la mettre en MPEG-4. J'ai qu'à glisser sur le convertisseur MPEG-4. Et à la fin du process, ça m'envoie un petit mail en disant « Le fichier est prêt, vous pouvez venir le récupérer. » Voilà. Ça a évité de monopoliser ma machine en calcul pendant des heures, souvent que des fois les machines sont un peu vieillissantes. Là, ça se fait à distance et vous avez un petit mail qui vous arrive pour vous dire « Ça y est, le travail est fini. » Voilà. Donc il y a tout un tas d'outils à l'intérieur et des outils de reconnaissance de caractère. Par exemple, on a branché l'outil Abifine Writer à l'intérieur. Et donc ça permet typiquement, l'usage pour le chercheur, hein, c'est vous avez des documents que vous avez photographiés, vous voulez en faire l'ossérisation, la reconnaissance de caractère. Vous mettez tout ça sur ShareDoc, vous glissez votre dossier sur la langue qui correspond à votre document, et à la fin, vous récupérez votre fichier Word ou votre fichier PDF ou texte pour des post-traitements avec la reconnaissance de caractère. Voilà. Là aussi, hein, c'est très facile à faire. Ça permet de ne pas monopoliser sa machine, un scanner dans son labo, un autre poste, etc. Donc, au-delà du stockage, il y a plein d'outils à Humanum qui sont disponibles. Là, il n'y en a qu'une toute petite sélection, qui sont des outils de cartographie, des outils de traitement stat, des outils d'encodage comme Oxygen, les licences Oxygen, des outils de base de données, des outils de déconvertisseurs, des outils d'enquête, des outils 3D, des outils 2D, etc. Voilà, ce type d'usage avec Shiny, donc qui est un environnement de développement de R. Des outils comme Voyant Tools qui vont permettre de faire de la data vise, de la visualisation de données sur du texte, etc. On va être capable aussi d'héberger très vite des sites web, des machines virtuelles, des outils qui vont s'inclure dans les technologies Docker. Comme on s'inscrit dans la science ouverte, dans le plan science ouverte, hein, souvenez-vous au début, on réalise des annuaires de ce qui est hébergé à Humanum. Hein, donc on a un annuaire des sites web hébergés. Il y en a un peu plus de 200 et quelques là, dans cet annuaire-là. Voilà, donc ça donne une image des humanités numériques, hein, quelque part, une sorte de photographie à un instant T de ce qui se passe aujourd'hui à Humanum en termes d'hébergement de sites web. Donc voilà, là j'ai traité la partie gauche, hein, donc les systèmes de stockage. De traitement et de diffusion. Et puis, on va voir donc la partie à droite maintenant avec les services à valeur ajoutée. Alors, tout d'abord, la plateforme Nakala, donc c'est ce qu'on appelle un service de diffusion et d'exposition de données, où là, en fait, vous allez pouvoir héberger des fichiers dans un espace. Ces fichiers, en fait, on va vous demander d'y mettre des métadonnées descriptives du fichier, de son contenu. Vous allez pouvoir les gérer en collection, fabriquer plusieurs collections, les fichiers vont pouvoir se retrouver dans plusieurs collections, etc. Mettre des métadonnées sur les collections, etc. Et ça, c'est un outil qui est développé par nous et qui est maintenu par nous avec l'aide des communautés. D'accord ? Donc ça permet d'avoir un outil, en fait, d'exposition des données et qui va permettre de commencer à avoir, à structurer de l'information, à structurer du corpus pour la rendre accessible. Donc ça ressemble à ça, hein, Nakala. Ça, c'est l'interface web de Nakala. Alors, dans Nakala, vous allez avoir, par exemple, des outils pour faciliter la citation de la donnée. On va mettre des identifiants, par exemple. On va embarquer certains outils de préservation à long terme des données, ceux du CINES en particulier avec lequel on travaille, pour tester les formats, pour voir s'ils sont légibles à l'archivage pérenne, au CINES, puis ensuite aux archives nationales. On va avoir des modèles de données structurées. On va permettre de rendre interopérables les données nativement avec de l'OAI, avec du RDF. On va vous mettre à disposition des outils pour charger des lots de données, c'est-à-dire préparer vos données sur votre ordinateur avec les bonnes métadonnées. Puis le jour où vous êtes connecté, hop, vous pouvez envoyer tout un paquet d'images ou de documents. Il y a des API pour développer des outils. Vous pouvez utiliser Omeka classique dans le cadre d'un service dont je vais parler après, qui s'appelle Nakalona, qui vont permettre de charger vos données dans Nakala. Et puis, c'est compatible avec la Fédération d'entités enseignement supérieur recherche pour vous authentifier avec votre compte universitaire local. Donc Nakala, c'est un des outils qui est présent dans ce qu'on appelle les annuaires internationaux de données de la recherche. Un des plus connus en Europe, c'est ReTroData. Voilà, qui permet en fait aux chercheurs européens, en quelques questions, en sélectionnant sa discipline, le pays dans lequel vous êtes, d'avoir des recommandations sur où déposer les données, où les documenter, etc. Bon, ça, c'est la résonance internationale. Ça, c'est la résonance nationale. Nakala, il est signalé dans pas mal de plateformes, en particulier la plateforme Catopidor, qui permet de fabriquer des plans de gestion de données dont vous entendrez sans doute parler dans les années qui viennent, puisque l'ANR rend obligatoire dès cette année le dépôt de plans de gestion de données pour tout projet financé par cette dernière. Alors, par exemple, Nakala, il peut être interfacé avec les Omeka. On peut récupérer avec des pointeurs RDF ou bien de l'OAI PMH des données dans Nakala pour pouvoir les éditorialiser dans un CMS comme Omeka. Je pense que vous en avez peut-être parlé hier. On fait, nous, une proposition de pack clé en main, en fait, avec un dispositif qui s'appelle Nakalona, qui est en fait un couple entre un Omeka classique et Nakala, où en fait vous avez accès à ça, c'est-à-dire que vous avez un Omeka classique avec en gros les modules courants que vous avez dans Omeka, un compte Nakala qui est couplé, vous pouvez donc importer, exporter les données depuis votre Omeka, un nom de domaine qui vous est fourni, mon projet de recherche, .nakala.fr. Une indexation à la demande dans notre moteur de recherche Isidore. Et puis toutes les mises à jour sont assurées par Humanu. C'est-à-dire qu'on fait les montées de version de Omeka, on fait les montées de version des modules, on fait les montées de version de Nakala, etc., etc. Donc là, c'est une solution clé en main. Typiquement, vous êtes en thèse, vous avez un petit corpus de thèse que vous êtes en train d'informatiser, vous êtes en train de structurer. Ça vaut le coup de regarder cette solution-là parce que ça peut potentiellement répondre à votre problématique de diffusion de vos données sans passer par la construction d'une base de données de diffusion derrière. Ça ne vous empêche pas de faire votre base de données à vous, évidemment, mais ça peut être une solution clé en main sans trop d'efforts pour vous pour démarrer une première diffusion, une première valorisation de tout ou partie de votre corpus de thèse, par exemple. Voilà. Quelques exemples que je pourrais vous montrer après. Voilà, donc ça ressemble à ça dans l'interface de Omeka, pour ceux qui connaissent, où là, vous avez un module, Nakala Import, Nakala Export, qui vous permettent de faire le va-et-vient. Et là aussi, vous retrouverez des exemples de sites qui sont opérés par ce service-là, Nakalona, dans notre annuaire des sites hébergés. Voilà, alors, il y a plein de gens qui utilisent ça. En fait, ça leur permet souvent... c'est le cas du labo du centre Edgar Morin, là, où en fait ils traitent toute leur documentation audiovisuelle avec nos services. Ils déposent tout dans Nakala, ils documentent tout dans Nakala, et ensuite ils ont un site Omeka dans lequel ils éditorialisent pour faire des galeries virtuelles, des choses comme ça. Voilà. Ça permet de faire le travail d'une fois, quoi. Alors, il y a une grosse évolution de Nakala pour 2019. Je passe vite, hein, c'est pas très important, mais c'est juste pour signaler qu'on est en train de parce qu'on a des demandes des communautés, hein, sciences humaines et sociales, on est en train de réfléchir à l'évolution de cet outil. On a refait la plateforme Isidore en 2018. Là, cette année, en 2019, on s'attaque à Nakala, où là, on va mettre en place tout un tas de choses nouvelles, avec en particulier un dispositif de préarchivage pour les données SHS. Un couplage avec la plateforme Opidor pour justement les plans de gestion de données, tout en assurant la rétrocompatibilité de tout ce qui a déjà été déposé, hein. Il y a 90 000 jeux de données qui sont déjà déposés dans Nakala aujourd'hui, hein, depuis 2013. Donc évidemment, faut pas faire le coup de la panne aux gens, hein, qui ont utilisé la version précédente de Nakala. Donc ça, c'est un travail qui est assez lourd à faire, parce que voilà, quand vous avez beaucoup de données dans un service, il faut penser à ça. Dernier point, donc dans les services à valeur ajoutée, la plateforme Isidore, donc c'est aujourd'hui à la fois un moteur de recherche, un réseau social scientifique qui permet l'accès à 5 millions de données, principalement en open access. On a un peu plus d'un million d'utilisateurs, visiteurs par an sur juste cette plateforme-là. Et Isidore collecte en fait les métadonnées, les données d'un peu plus de 6000 gisements de données, de sources de données dans le monde. Voilà, ça ressemble à ça, hein, la dernière version, avec d'aide au requêtage. Vous avez un espace chercheur, hein, ou doctorant. Hein, les doctorants peuvent se créer un compte dans la plateforme Isidore. Alors là, il y a plein de petites choses intéressantes, hein, d'outils de veille qu'on a mis au point dans cet espace-là. Dès que vous créez un compte, en fait, et que vous avez commencé à publier des choses, eh ben, Isidore va vous faire des propositions de lecture. Vous allez pouvoir, par exemple, stocker vos listes bibliographiques à l'intérieur. C'est aussi compatible avec Zotero. Je crois que vous avez une journée Zotero hier. Donc vous pouvez commencer à stocker là, puis exporter vers Zotero. Hein. Donc faire vos recherches directement dans le moteur. Vous avez accès à tout l'historique de vos différentes recherches. Vous pouvez enregistrer vos recherches pour pouvoir les rejouer plus tard, pour voir s'il y a des nouveautés qui sont là. Vous allez pouvoir suivre des auteurs, etc. Voilà, le suivi d'auteurs, c'est assez intéressant, hein, pour des doctorants qui commencent à explorer un champ disciplinaire. Qui ont besoin de repérer des chercheurs qui travaillent dans le même champ disciplinaire qu'eux pour pouvoir voir ce qu'ils publient, etc., voir les travaux qui sont un peu dans le domaine. Mais là, dans Isidore, vous pouvez suivre des auteurs, en fait. Et à chaque mise à jour d'Isidore, ça vous dit s'il y a des nouveaux documents pour cet auteur-là, lesquels il a revendiqués, etc. Donc voilà, hein, c'est des petits outils de veille qui sont relativement faciles à accéder. Alors, il y a une fonctionnalité qui est intéressante dans cet outil-là. Alors, peut-être moins pour des doctorants qui n'ont pas forcément commencé à beaucoup publier, et même si on peut les encourager à publier le maximum dès le début de leur thèse. Mais ce qui est intéressant pour des enseignants-chercheurs, c'est qu'aujourd'hui, on a le besoin on publie tous, en fait, dans plein de revues, dans des carnets de recherche, on dépose dans HAL, etc. Donc, on a une certaine bibliodiversité, en fait, hein, mais c'est la vie courante de la publication en lettres et sciences humaines et sociales. Alors, ce qui est intéressant dans la plateforme Isidore, c'est qu'on va pouvoir regrouper, en fait, tous ces documents-là. C'est-à-dire qu'ils soient sur HAL, qu'ils soient sur une revue de revue.org, enfin de Open Edition, un livre de Open Edition, un carnet de recherche que vous tenez pour votre thèse, des articles que vous avez publiés dans une revue qui va être sur Cairn, par exemple, ou des données déposées dans Nakala, ben vous allez pouvoir les regrouper dans votre profil pour vous faire une page utilisateur avec toutes les données, qu'elles soient sur HAL, qu'elles soient sur Nakala, qu'elles soient sur Cairn, qu'elles soient sur Hypothèse, qu'elles soient dans l'une des 6000 sources de données collectées par Isidore. Donc ça, c'est un outil qui est ouvert à tout le monde, enfin à tous les gens de la communauté SHS. Et donc ça peut être intéressant pour des doctorantes de commencer à se faire un profil. D'abord pour travailler, hein, faire de la veille sur les disciplines dans lesquelles vous êtes. Et puis ensuite, petit à petit, d'agréger hein, ces métadonnées et d'agréger ces documents. Alors Isidore, il y a trois fonctions. On va collecter de l'info, on va l'enrichir, la classer, la catégoriser et donner accès à cette information-là, à des articles, à des documents, à des fichiers, à des relevés de terrain, à des photos, etc. Il y a évidemment beaucoup de fournisseurs de données. Là, il y a quelques-uns qui sont présents. Et ce que je peux dire, c'est qu'on a dépassé depuis quelques années maintenant la dimension nationale, puisqu'on intègre de plus en plus des gisements de données qui viennent de différentes universités de par le monde, en langue anglaise et en langue espagnole. Voilà. Donc on va enrichir, on va classer, on va catégoriser en utilisant des référentiels scientifiques pour augmenter les données, pour les relier entre elles, ce qui va vous permettre de découvrir comme ça hein, des données. Vous vous intéressez à la petite aristocratie médiévale, ce qui avait été mon cas il y a 20 ans, hein, quand je faisais mes études. Ça peut être intéressant comme ça de découvrir par le jeu des données liées dans le web sémantique des données que vous ne soupçonniez pas parce qu'elles viennent de je sais pas, la bibliothèque de Barcelone ou des choses comme ça. Et on fait ça en trois langues, anglais, français, espagnol pour le moteur. Alors Isidore est accessible de différentes façons. Pour les humains, il y a donc le moteur, Isidore.science. Il y a des modules pour WordPress qui existent. Et puis c'est aussi accessible aux machines. On a des API, des choses comme ça. Donc là, un exemple d'utilisation du corpus Isidore dans un carnet de recherche d'hypothèse.org. Vous avez le module pour ceux qui est disponible dans hypothèse.org nativement. Là, c'est un module hein, qui fait des suggestions de lecture, en fait. Hein. Donc vous écrivez un billet dans votre carnet, vous taguez certains mots de votre billet et ça va interroger le corpus Isidore pour faire des suggestions de lecture à vos lecteurs. D'accord ? Donc ça peut être intéressant. Ça se fait automatiquement. En quelques clics, vous avez ça. Vous pouvez trier les résultats, etc. Voilà, Imoco, ça vous permet de vous fabriquer votre moteur de recherche personnalisé sur une discipline ou une sous-discipline ou sur un groupe de sources de données, par exemple. Vous voulez que vous vous intéressez à l'époque médiévale, par exemple. Pour reprendre cet exemple-là, vous pouvez dire voilà, je veux que des documents entre telle année et telle année qui viennent de Gallica, qui viennent de, voilà, pour vous faire un moteur à vous que vous pouvez mettre sur votre site. Voilà. Bon, ça, c'est des petits outils. Voilà. On utilise aussi, on développe avec les Canadiens, depuis 3 ans, un programme qui s'appelle Isidore à la demande, Isidore en demande, qui permet d'accéder au module d'enrichissement d'Isidore pour développer des applications. Donc ça, c'est une sorte de boîte à outils, en fait, hein, de traitement de la donnée. Vous avez des outils d'extraction d'entités nommées, des choses comme ça, qui peuvent se brancher à des logiciels que vous êtes en train de développer ou de faire développer. Et je m'arrête là, j'ai tout balayé. Non, j'ai pas parlé de l'archivage à long terme, mais je peux en dire un mot maintenant. Vous l'avez vu dans la diapo tout à l'heure, mais l'ensemble des données qui transitent en fait par la TJR Humanum, à partir du stockage jusqu'à la partie Nacala, en fait, ont vocation, à partir du moment où elles sont documentées, de partir dans un dispositif d'archivage à long terme. Alors nous, on a une convention avec les archives nationales depuis 2013, où on met en œuvre un service d'archivage à long terme des données qui a deux étages, deux parties. Un premier dispositif d'archivage qui se fait au CINES, pardon, à Montpellier, pour une durée qui va de 15 à 30 ans. Et ensuite, au bout de cet archivage intermédiaire, au bout des 30 ans, les archives nationales ont pour mission de définir si elles récupèrent le corpus pour l'archiver définitivement ou pas. Hein, ça, c'est les archives nationales qui décident. C'est le circuit classique de l'archivage. Archivage intermédiaire et archivage définitif. Et donc, on a développé ce service-là. Ce que l'on indique aux gens, c'est qu'ils ont un projet de recherche avec des données qu'ils souhaiteraient archiver. C'est que le chemin vers l'archivage passe par d'abord du stockage, une exposition, parce qu'il faut mettre des bonnes métadonnées, des choses comme ça. Il faut définir la visibilité des données une fois qu'elles seront au CINES, une fois qu'elles seront aux archives nationales, etc. Donc ça, c'est un travail qui est long. C'est un travail qui se fait au fil de l'eau dans le projet de recherche. Et quand les gens nous disent « je voudrais archiver mes données », de façon pérenne, bah, en dire ok, on va le préparer avec vous, et puis on va voir d'abord si c'est possible de les archiver. Tous les formats ne sont pas archivables. Et puis ensuite, ça déclenche tout un workflow hein, de travail tout au long du projet de recherche. Donc là, j'ai balayé rapidement les services. À gauche, vous avez vu des services très génériques, directement accessibles. À droite, des services à plus haute valeur ajoutée qui se construisent avec la TGIR au fur et à mesure que le projet de recherche se passe, en indiquant bien que notre infrastructure est organisée autour du programme de recherche. Donc, par exemple, d'une thèse, on le considère comme un programme de recherche, en essayant de le faire résonner à la fois dans les communautés, les consortiums, les maisons des sciences de l'homme, en bénéficiant d'outils et de services, et ensuite potentiellement en résonnant à l'échelle internationale. Voilà, là vous avez les. Je vous remercie, et vous avez les différents moyens de nous contacter. Bien sûr, s'il y a des questions.
Oui, merci beaucoup. On va passer aux questions, aux remarques.
Oui, merci pour votre intervention. J'ai une question que je vais essayer de... J'ai beaucoup de questions. Je vais essayer de les regrouper autour d'une seule notion, celle d'exception. Vous avez montré un schéma qui, grosso modo, nécessairement va standardiser... on va dire tout ce qui est les humanités numériques autour une certaine norme concernant la donnée. Ça, c'est le premier aspect. Il y a eu pas mal de discussions au moment de la naissance d'Adonis pour savoir autour de quoi il fallait centrer la réflexion, autour, notamment le collectif Roger Pédo, que ça se disputait pas mal. Comment est-ce qu'il fallait définir le document ou la donnée ? Et donc, est-ce que moi, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a quelque chose de très centralisé. Est-ce qu'il y a de la place pour des initiatives d'humanité numérique qui vont être un petit peu dissidentes, finalement ? C'est-à-dire qui ne vont pas fonctionner avec votre manière de fonctionner. D'accord ? Par exemple, moi, j'ai un projet d'humanité numérique autour de la traduction à l'Université de technologie de Troyes. On ne travaille pas avec la notion de données. On ne travaille manifestement pas en web sémantique. On ne travaille pas avec ce système de métadonnées. Donc, qu'est-ce qu'on peut rentrer dedans ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième aspect, c'est en contraste par rapport à cet univers qui est finalement assez français, assez centralisé, est-ce que vous pourriez nous donner une idée du paysage qui existe à l'international ? Hier, on a entendu parler des États-Unis, c'était très intéressant. Les États-Unis étaient peut-être plus en avance, mais c'est aussi un paysage plus fragmenté parce que les humanités numériques sont nées dans des universités privées qui ont plutôt chacun leur propre système. Alors j'aimerais beaucoup vous entendre parler là-dessus, surtout que vous avez parlé des collaborations que vous avez à l'international. Moi, j'enseigne au Brésil, par exemple. Je ne sais pas si vous avez des coopérations avec ce pays, mais vous avez parlé de l'Argentine. Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment les autres pays articulent. Est-ce que c'est une spécificité française de tout centraliser ? Est-ce qu'il y a une place pour la dissidence ou l'exception qui va être différente dans les autres pays ? Et puis, une petite blague, peut-être, pour finir. Est-ce que vous allez être impacté par le Brexit au niveau des données ? Ou par une autre sortie d'un pays de l'Union européenne, ça peut être l'Italie ou la Grèce demain. J'ai entendu dire, mais je ne connais pas les détails, qu'il peut y avoir un impact au niveau du traitement des données de ces architectures institutionnelles qui, après tout, peuvent être amenées à changer. Donc j'aimerais, là encore, en revenant à cette question de l'exception, vous entendre parler. Merci.
Je vais peut-être pas répondre dans l'ordre, mais donc sur votre première remarque... Je dirais que alors c'est pas si normatif que ça, c'est-à-dire que là ce que je vous ai montré c'est l'architecture générale qui regroupe environ un peu plus de la moitié des besoins des utilisateurs qui fréquentent Humanum. Parce que on a tous besoin de valoriser la recherche, on a tous besoin d'échanger ces données avec des collègues, des choses comme ça. Mais à partir du moment où vous avez une communauté de pratique dans votre secteur, dans votre projet, et que vous avez besoin de différents niveaux de ressources, rien ne vous empêche de nous contacter, de voir si nous, on peut répondre à tout ou partie du besoin que vous avez. ça, j'insiste sur le point, c'est sur ce point, c'est que en fait, c'est pour ça qu'on a des services très génériques qui sont très neutres entre guillemets en termes d'humanité numérique, et puis d'autres qui le sont moins. Parce qu'on sait qu'il y a une multitude en fait de projets de recherche et de modes d'organisation des projets de recherche. Et ça, on est assez attentif à ça parce que ça, c'est si en gros, si je vous disais, ben il y a toutes les données sont là pour être dans Nacala et puis partir à l'archivage, on passerait un peu à côté du besoin. Parce qu'il y a des gens qui vont pas jusqu'à ça. Il y a des gens, ils ont juste besoin de faire du calcul sur de la donnée, par exemple. Voilà. Ils ont juste besoin d'un outil de calcul pour leur projet de recherche, pour la donnée. Ils utilisent donc qu'une partie, en fait. Ils vont utiliser la partie traitement, là, les logiciels qui sont dans la partie traitement. Puis ils vont s'arrêter là. Ils vont pas utiliser le reste. Ils vont pas être dans Isidore. Ils vont pas faire d'archivage. Ils vont pas. Voilà. Donc ça, c'est un peu à la carte, j'ai envie de dire, par rapport à votre projet. Après, si vous venez avec des outils, ben on peut les accueillir aussi. Il y a beaucoup de communautés qui forgent des outils, qui forgent des workflows de traitement de la donnée qui leur sont propres et qui sont pas très normalisés, j'ai envie de dire, au sens de la science ouverte, c'est-à-dire avec des métadonnées, des choses comme ça. On a des collègues qui font du traitement du signal, par exemple, qui enregistrent des langues rares, etc. Ils ont une chaîne de traitement qu'ils ont forgée eux-mêmes, en fait, parce que ça correspond à leurs besoins de scientifiques. Et parce que leur chaîne, ils pouvaient plus la faire fonctionner sur leur infrastructure locale, dans leur laboratoire, ils avaient besoin de plus de puissance de calcul. Ils sont venus à Humanu. Mais ils sont venus avec leurs outils, leurs méthodes. Voilà. Nous, on leur fournit la puissance de calcul. On leur fournit les collaborations potentielles avec d'autres communautés. Donc c'est moins... Il ne faut pas le voir comme un truc très normatif. Il y a une partie qui est normative, une partie qui ne l'est pas. Quoi. Voilà. Bon, sur les collaborations... Enfin, sur l'international... je peux dire deux choses. C'est que il y a, alors il y a une petite anecdote, c'est que en gros il y a deux sons de cloche. Quand on présente Humanum en France, on nous dit souvent c'est très centralisé. Comment ça se passe à l'étranger où c'est très décentralisé? Et les modèles étrangers avec les universités américaines en particulier qui ont des digital humanities center sont beaucoup plus agiles, etc. Et puis quand on est aux États-Unis, au Canada ou ailleurs dans le monde, quand ils regardent notre modèle, ils nous disent « Ah putain, vous avez de la chance en France parce que au moins vous avez un endroit où vous faites tout. » Alors c'est assez marrant parce que on arrive toujours à avoir les deux choses. Alors au-delà de l'anecdote. Ce que je peux dire, c'est que nous, on a deux parties. Vous l'avez vu, dans Humanum, il y a une partie communauté de pratique autour du numérique dans les sciences humaines et sociales, puis une partie service. En gros, la partie service que vous voyez là, elle est assez commune et on la retrouve dans pas mal d'infrastructures à l'étranger. Alors, principalement aux États-Unis, au Canada, enfin en Amérique du Nord, et en Europe, vous avez ce genre de dispositif. Ils sont beaucoup moins intégrés habituellement parce que ils ont été forgés. Alors là, je parle pour l'Europe principalement. Ils ont été forgés par des universités localement. C'est que souvent, c'est des empilements qui se sont créés au fil de l'eau parce que les universités sont assez autonomes. En particulier, je pense à nos collègues allemands avec qui on a pas mal d'échanges, où ça fonctionne évidemment beaucoup par lander et beaucoup par université. Et donc vous avez quelque chose qui est moins unifié que ça en termes de chaîne de traitement de la donnée. Donc ça, c'est un premier point. Après, le deuxième aspect que je peux souligner sur l'international, c'est que... l'articulation entre la partie d'animation de communauté, ce qu'on fait avec les consortiums, ce qu'on fait avec les maisons des sciences de l'homme, etc., et la partie infrastructure, elle est Nous, on va le faire de façon transdiscipline en sciences humaines et sociales, alors qu'à l'étranger, vous avez souvent des centres très spécialisés dans une discipline. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des historiens qui ont forgé un instrument, une infrastructure pour leurs besoins. Voilà. Ils ont eu des financements, par exemple. Voilà. Il y a quelques exemples, contre-exemples, je pense à nos collègues du NT2 à l'UQAM au Canada, où au NT2, ils sont un petit peu comme nous. Alors, ils sont plus petits parce qu'ils ne servent que les communautés de l'UQAM, en gros, enfin, que les communautés québécoises, mais ils fonctionnent un petit peu comme nous. Donc, je dirais qu'il y a les deux modèles, en fait. Il y a les modèles disciplinaires, d'infrastructures disciplinaires, qui se sont forgés autour d'une discipline et qui sont installés dans une université. Et après, il y a des modèles un petit peu comme le nôtre, un peu plus transdiscipline. C'est ce qu'essaye de faire le CONICET en Argentine. C'est ce que fait un peu Cielo au Brésil avec la partie publication et le réseau des Cielo Amérique du Sud. Voilà, il y a toujours un peu ces deux aspects. Après, la grande différence entre la France, j'ai envie de dire la France, et en gros l'Amérique du Nord, puisque c'est là où il y a le plus d'humanité numérique, c'est nous, on a conçu les plutôt, et c'est ce que les communautés étrangères nous envient toujours, c'est que, mais c'est pas lié aux sciences humaines et sociales, c'est qu'en gros, en France et en Europe, vous avez des très grandes infrastructures qui regroupent des paquets de disciplines, de façon soit nationale, soit transnationale. Et en Amérique du Nord, vous avez des universités, c'est-à-dire que c'est centré autour de l'université. C'est l'université qui pilote. Et pour passer à l'échelle interuniversitaire, c'est un peu plus compliqué. C'est, en tout cas, pour les humanités, c'est ça qu'on remarque. Et j'ai oublié votre troisième remarque. Question.
C'était le Brexit.
Ah, sur le Brexit. Alors ça, c'est un peu une colle pour nous, parce qu'on n'a pas... Il peut y avoir des effets de bord parce qu'effectivement, il y a un certain nombre, par exemple, d'éditeurs logiciels qui éditent des logiciels qui sont britanniques et qui vont donc quitter l'Union, et ça va se passer, on ne sait pas comment. Alors, est-ce qu'il y a un impact direct sur Humanum? Pour l'instant, je ne pense pas, ou en tout cas, on ne le mesure pas. En revanche, on voit très très bien qu'au niveau des... par rapport aux autres pays de l'Union... On voit très très bien que dans les infrastructures européennes, hein, Daria, Clarin, etc., où de toute façon le Royaume-Uni n'était pas présent, hein, donc ça va peut-être un peu limiter l'impact. Mais ce qu'on voit, on voit très très bien, c'est que les pays sont, enfin plutôt les infrastructures des pays sont extrêmement fragiles et extrêmement liées à l'Europe. Je pense à nos collègues italiens avec qui on travaille beaucoup sur le projet Parthenos. En Italie, les équivalents d'Humanum, il y en a plusieurs, dépendent exclusivement des financements européens. Il n'y a pas de financements nationaux. Il n'y a pas de financement national en Italie pour des infrastructures de recherche en sciences humaines et sociales. Ou très peu. Enfin, c'est anecdotique. Même chose en Grèce, même chose en Allemagne. Enfin, en Allemagne, c'est un peu différent. Mais par exemple, aux Pays-Bas... le DANCS, qui est l'équivalent du Manum pour les Pays-Bas, a plus de 60% de ses crédits qui viennent de l'Union européenne. Nous encore, là, les 2,3 millions d'euros qu'on a à Humanum sont franco-français. Donc ils sont un peu centraux, franco-centrés, j'ai envie de dire. Mais il peut y avoir un impact très fort. S'il y a des baisses de financement ou des déséquilibres qui se créent en Europe sur certains pays, l'Italie en particulier, l'Espagne aussi, le Portugal sont des pays qui font vivre leurs infrastructures de recherche exclusivement avec des financements européens. Voilà. Je pense que pour les Britanniques, enfin pour les Anglais, ça va être aussi dramatique. Je pense pour certains, on a des collaborations avec Oxford par exemple, où on se pose beaucoup de questions. Alors, après, je ne serai pas vous répondre plus en avant que ce que je dis là, parce qu'on n'y est pas, et que les Anglais n'étaient pas très présents dans les infrastructures européennes pour le moment. Donc ça limite peut-être un peu le... En revanche, on a vécu beaucoup plus fort à Humanum, hein, l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, puisqu'on a eu des demandes de certains centres de données américains qui font de la sociologie, par exemple, des populations, des choses comme ça, de mise en sécurité de leurs données. Oui. Donc, voilà. Ils nous ont appelés, ils nous ont envoyé des mails en disant est-ce qu'on pourrait faire une copie intégrale des données je ne sais pas si Sean est dans la salle, mais il est parti. On a eu un échange avec Sean autour de la base de données de Zotero. Hein, tous les gens qui utilisent Zotero, vous le savez, hein, la synchronisation des données de Zotero, hein, ça se fait sur un serveur qui est exclusivement aux États-Unis. Et donc avec Sean, hein, on discute assez régulièrement pour qu'il y ait un miroir de ces données-là hébergées à Humanum, parce que qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un problème. Donc on l'a vécu de façon assez intense, je dois dire. On a eu beaucoup de collègues américains, je pense à nos collègues de l'université de Reno, au Nevada, qui nous ont tout de suite appelés quelques jours après en nous disant voilà, nous on a des données sur la pauvreté aux États-Unis, on voudrait les mettre en sécurité. Voilà. Oui. On l'a fait partiellement, parce que c'est très compliqué à faire, en fait, juridiquement parlant. Oui, il y avait une autre question.
Bonjour, Pierre Willem, je suis ingénieur aux archives Poincaré à Nancy. Je voulais poser une question sur le rapport entre les données qui ne sont pas encore numériques et ensuite les données numériques. Je prends un exemple. Par exemple, imaginons que dans mon laboratoire, on reçoive un nouveau fonds d'archives. La première chose qu'on va faire, c'est un inventaire. Actuellement, on utilise un logiciel qui s'appelle Atom sur un serveur Humanum et on décrit le fond avec la norme ISA-G. Il y a aussi la norme EAD. Et le problème que j'ai, c'est de passer de cette description du document physique avec des éléments qui sont uniquement matériels sur l'état du document à une description ensuite avec des métadonnées qui seront soit doubling core, soit une autre ontologie. Et qui seront des descriptions plus scientifiques. Parce qu'ensuite, s'il y a un projet qui se fait, ce n'est pas toujours le cas, le fond va faire l'objet d'un traitement et à terme d'un site Omeka Classique ou Omeka S. Et ce site Omeka Classique, Omeka S, il va contenir des métadonnées, souvent doubling core, qui vont être renseignées par les chercheurs et qui vont aller beaucoup plus loin que les métadonnées uniquement archivistiques qu'on a en norme ISA-G. Donc c'est assez difficile actuellement pour moi, peut-être que je n'ai pas tous les outils, mais de faire la liaison entre les deux. Voilà.
Je vous confirme, c'est difficile. Il n'y a pas que vous, c'est une vraie question. Alors ce n'est pas une question du tout technique, ce n'est pas une question technologique du tout, c'est une question organisationnelle et sémantique en fait. Techniquement, on sait à peu près le résoudre. Mais par contre, ça veut dire de se poser des questions de réutilisabilité d'un travail d'encodage fait pour un usage vers des usages qui vont être différents. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, en particulier dans les consortiums du Manum, sur ces questions-là autour de l'encodage de textes en TUI, de comment on peut réutiliser et réencoder en fait, derrière des choses. Ce n'est pas une question triviale. C'est une question c'est pas une question. Alors, ça peut être une question d'outils à un moment donné, mais c'est pas qu'une question d'outils. C'est surtout une question d'organisation. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez un fonds d'archives, un inventaire de fonds d'archives en EAD, par exemple, qui va contenir des notices d'auteurs en EAC, par exemple, hein, pour parler vite, ce qui peut être très intéressant, c'est d'encoder des URI, par exemple, à l'intérieur de l'EAC pour avoir des pointeurs qu'on va réutiliser quand on va faire de l'enrichissement sémantique dessus. Il y a tout un tas de points de jointure entre, on va dire, le monde XML et le monde RDF, pour parler vite là aussi, qui peuvent être mis en œuvre. Voilà. Et ça passe par du design de service ou du design d'interface pour pouvoir avoir des outils faciles pour des chercheurs qui vont traiter la donnée, quoi, en fait. Voilà. Alors, si je dézoome un peu votre question, parce que c'est un peu le job du Manum, toujours de dézoomer un peu par rapport à des communautés de pratique, on travaille depuis quelques semaines sur la question de la publication des inventaires de recherche EAD. Parce qu'en fait, on héberge à Humanum une quarantaine de projets qui utilisent de l'EAD, soit sous Atom, soit sous Pléiade, soit sous des logiciels faits maison, des choses comme ça. Et donc, on réfléchit un peu et on va essayer de dans la partie diffusion ou dans la partie exposition, on ne sait pas encore, de mettre au point un dispositif de publication des EAD qui soit motorisé par Humanum, parce que les logiciels que vous avez cités, enfin que vous utilisez et ceux que j'ai cités, sont un peu vieillissants. On a du mal à voir. Et c'est souvent des, par exemple, Pléiade, c'est des logiciels qui deviennent vite chers quand on prend les versions payantes, enfin, ou les développements payants. Et donc, du coup, on réfléchit à avoir un dispositif de publication EAD, EAC. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui est en cours parce qu'on sait qu'on a des communautés qui en ont besoin. Voilà. Après, ce qui serait intéressant, ce que je conseille toujours, c'est le travail qui a été fait par le consortium Imageo avec la plateforme Navigae. Peut-être que vous en avez entendu parler. Vous le retrouverez sur nos sites web, sur notre carnet de recherche. C'est une plateforme de rééditorialisation d'archives cartographiques. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont mis en place, avec les outils d'enrichissement d'Isidore, ils ont mis en place une chaîne de traitement qui, en fait, va faire de l'enrichissement sémantique avec des référentiels sur des données de type XML. Voilà. Pour faire de l'enrichissement de base qui ensuite est soumis à la validation par les chercheurs. Donc c'est une espèce de première étape qui nourrit de l'information et après les chercheurs ils n'ont plus qu'à enlever ce qu'ils ne veulent pas. Voilà. Bon voilà, c'est des pistes, mais c'est pas une question triviale. Et je dézoome encore un coup. On espère pouvoir monter une formation en fin d'année 2019, une action nationale de formation de 2-3 jours, comme on avait fait il y a plusieurs années, autour des données du web sémantique, en particulier dans l'optique données patrimoniales ou données d'archives, ou plutôt corpus d'archives de web sémantique. Parce qu'on sait qu'il y a des communautés qui sont... on a beaucoup de communautés qui nous demandent ça. Donc on va essayer de l'organiser là sur la fin de l'année.
Bonjour, je suis Mongbat Abet, démographe et doctorant en géographie au laboratoire Migrantel. J'ai 3 questions. La première est d'ordre éthique et juridique. Je voudrais savoir quelle est la nature des données que vous stockez et une fois stockées, comment se passe le management? Est-ce qu'il y a des données secrètes? Est-ce que c'est n'importe qui peut avoir accès aux données? Ça, c'est la première question. De deux, est-ce qu'au niveau de votre plateforme, il y a la possibilité d'apprentissage à distance? Troisième question, moi je suis en permanence en Afrique et j'aimerais savoir où le terrain est vierge concernant le sujet de l'humanité numérique. Quelles orientations pourriez-vous me donner pour y marquer les premiers pas?
Alors sur votre première question par rapport au... En gros, à l'ouverture des données, tous les services qui sont à... Enfin, sauf le service diffusion. Mais en gros, tout ce que vous stockez à Humanum, c'est vous qui décidez quand il est accessible. D'accord ? Alors, j'attire juste votre attention sur un élément juridique majeur. C'est que on est aujourd'hui dans... donc, on s'inscrit aujourd'hui dans le cadre du plan pour la science ouverte. Et que sur l'ouverture des données scientifiques, il y a un cadre maintenant législatif qui est en place, qui définit en fait une ouverture des données par défaut, puisque c'est le cadre national. Et donc, il faut trouver des exceptions si on ne veut pas ouvrir les données. Hein. Donc c'est le principe actuel. Donc, ce qu'on a mis en place, nous, à Humanum, c'est que... quand un projet de recherche vient nous voir, on sait qu'il y a des données qui ne sont pas des données forcément publiques, donc tout va bien. Et par contre, ce qu'on essaye d'identifier avec le projet de recherche, c'est quelles sont les données qui le seront un jour publiques. Et on va accompagner le projet sur cette question-là. C'est-à-dire que On est très attentif. Alors, il n'y a pas que nous maintenant, mais on est très attentif au fait d'identifier dans des jeux de données les données qui sont soit déjà ouvertes parce que patrimoniales, etc., et que donc ces données ne soient pas réenfermées dans une pratique d'un programme de recherche, première chose. Et deuxième chose, quand ce sont des données natives de captation, on va essayer d'identifier avec le projet de recherche quelles sont les données qui seront un jour accessibles, voilà. Et, ou tout ou partie. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est très important parce que on est dans un cadre où, au niveau de l'État, les données sont ouvertes par défaut et il faut donner les exceptions. Alors, il y a plein d'exceptions, je vous rassure. Mais voilà. Alors, ça se fait assez simplement, ça. Et donc, il n'y a pas trop de crainte à avoir. Mais toutes les données qui sont stockées chez nous ne sont pas accédées publiquement. Hein. Les données sont dans des conteneurs avec mot de passe, login, certificat s'il faut, etc. On est en train de travailler en ce moment avec... On a une réunion la semaine prochaine, début de semaine prochaine d'ailleurs, avec le CNRS, en particulier notre département informatique et liberté, parce qu'on a des demandes aujourd'hui à Humanum de stockage de données de santé pour des usages SHS, où là, on doit amener des garanties de données cryptées. Sur lequel on n'est pas, nous, aujourd'hui, Humanum, capable de crypter de la donnée, accéder à distance, etc., avec VPN, etc. Donc on est en train d'y travailler, parce que là, on a deux demandes importantes de programmes européens qui sont pilotés en France, hein, qui sont dans deux UMR du CNRS en France et de l'Université de Paris 8, sur des données de santé, donc des données non anonymisées en plus. Où là, il y a de la sécurité, de la cryptographie à faire sur la donnée. Alors ensuite, en termes de formation, malheureusement, on n'est pas assez nombreux à Humanum pour faire de la formation en ligne à nos outils. Cela dit, nous travaillons en ce moment avec le projet Doranum, qui est un projet mené dans le cadre du plan pour la science ouverte et avec le concours de l'INIST à Nancy. La plateforme Doranum, en fait, elle construit des formations en ligne sur des outils. Vous en avez une sur Zotero, par exemple. Et on travaille avec eux pour produire, en fait, des formations en ligne sous forme de webinaire à nos différents services. Après, sur la formation, toujours, je vous encourage à contacter les réseaux métiers qui existent dans le domaine de la donnée en sciences humaines et sociales. Il y a le réseau MATE-SHS, il y a le réseau Renatis, il y a le réseau des bases de données, qui sont des réseaux métiers CNRS. Alors, bon, certes, ils sont tournés vers les laboratoires du CNRS, mais je vous encourage quand même à prendre contact avec eux, parce que dans les réseaux métiers que je viens de citer, il y a des gens qui pourraient vous accompagner. Sur l'Afrique, on essaye, on n'y est pas arrivé en 2018, on essaye de développer un programme avec l'agence universitaire de la francophonie, en particulier à destination de l'Afrique. C'est à leur demande, en fait. Ils sont venus nous voir au début de l'année 2018 pour commencer un programme de travail avec les différentes universités africaines. Alors là, pour l'instant, on est en train de... Donc, c'est eux qui sont venus nous voir. Ils ont un premier plan qui est en cours de mise en place. Et on essaye de voir comment on pourrait s'insérer dans leur plan à eux. Parce que nous, on n'a malheureusement pas les forces dans l'équipe de mettre quelqu'un à 100% sur les partenariats sur le continent africain. On a fait l'Amérique du Sud en 2017. On a fait l'Amérique du Nord en 2016. L'Afrique devrait arriver dans les... Voilà. Mais il nous manque quelqu'un à Humanum pour s'occuper du continent africain pour le moment. Donc on travaille avec l'AUF là-dessus.
Bien, merci. Merci beaucoup. Je vous propose de faire une petite pause d'une dizaine de minutes et on reprendra avec Thierry Sozo sur l'historien face aux défis du numérique. Merci. CRIAM, qui est le Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l'art et musicologie de l'Université de Poitiers, voilà, et qui est spécialiste d'histoire maritime et qui va nous montrer des exemples concrets d'utilisation du numérique dans ses recherches. Merci.
Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord remercier évidemment les organisateurs pour avoir fait appel à moi. Il faut dire que par rapport à ce que j'ai pu entendre ce matin, je vais me situer évidemment à tout autre niveau, hein, puisque je vais plutôt vous parler d'artisanat dans l'utilisation des humanités numériques. Et en fait, tout simplement vous dire que, un petit peu comme M. Jourdain, j'ai dû faire pendant longtemps des humanités numériques sans le savoir, puisqu'on a vu avec la conférence introductive que c'était un terme qui finalement était relativement récent, hein, en termes d'histoire. Alors moi, je voudrais vous présenter finalement un champ historique, un champ disciplinaire, voilà. Revenir un petit peu sur, j'ai envie de dire, ses développements historiographiques, la manière dont il s'est bâti, et on va finalement voir que cette trajectoire historiographique, eh bien, elle a croisé, elle a accompagné, elle a été finalement encouragée par le développement donc du numérique et des humanités numériques. Alors, je voudrais commencer par revenir sur quelque chose qu'on a entendu tout à l'heure. On a entendu parler de workflow, hein, par M. Pouillot. Bon, on pourrait traduire ça par chaîne de travail. En fait, si on réfléchit bien à la manière dont les historiens peuvent travailler avec le numérique, eh bien, on se rend compte que la chaîne de travail à laquelle ils sont confrontés, elle appartient à des métiers qui me semblent en tout cas être des métiers différents. Alors vous voyez, j'ai grossièrement découpé ça en trois étapes. Mais la première étape, évidemment, elle parle aux historiens. C'est définir une problématique, c'est identifier des sources. Et puis c'est faire passer ces sources à l'état de données. Et là déjà, il y a déjà un énorme travail sur lequel on reviendra au cours de la présentation. Une fois qu'on a transformer ces sources ou qu'on a sélectionné les informations pour obtenir des données, eh bien, il y a l'étape de l'analyse et de la synthèse. Et puis, il y a une troisième étape. Et l'ensemble de ces étapes, finalement, ont été décrites parce qu'elles sont, elles donnent lieu à une offre d'aide et d'assistance de la part d'Humanome. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a également la publication et la communication. Et l'ensemble de ces étapes de la chaîne de travail, eh bien, croisent en quelque sorte la trajectoire du travail de l'historien. Et je pense qu'on peut essayer d'y revenir, d'identifier l'apparition des différentes étapes en suivant, par exemple, une historiographie qui pourrait être celle de l'histoire maritime. Alors, voilà, je vais enfoncer des portes un peu ouvertes, même si le thème que je vais vous proposer, je pense qu'il est assez méconnu ici sur la place de Poitiers. Il y a d'abord, effectivement, l'héritage des annales avec un souci qui était de compter ce qui était grand, ce qui appartenait à des grandes séries, et on était vraiment dans de l'histoire quantitative et sérielle. On est ensuite passé à une autre façon de faire l'histoire, où on s'est approprié, et ça quel que soit le champ disciplinaire, les règles de la micro-histoire, mais aussi de l'histoire globale. Et en fait, on en est venu à faire dialoguer le petit, le local et le global. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que la recherche historique, elle est intégrée de plus en plus à la faveur, par exemple, des appels d'offres ou des appels à projets auxquels on peut répondre. Elle est intégrée à des travaux qui sont largement pluridisciplinaires. Et donc, on verra que cet état d'avancement donc, des chantiers historiques avec l'histoire globale est à appréhender au prisme de la pluridisciplinarité. Alors, je balaye rapidement ce que je voulais évoquer avec vous, hein. Il faut savoir, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, on a commencé à parler d'humanité numérique pendant la Seconde Guerre mondiale ou au lendemain de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, mais les préoccupations qui ont amené finalement la prise en compte de ces humanités numériques, en tout cas dans le domaine non plus de la liaison entre, j'ai envie de dire, la source et puis le côté littéraire de cette source-là, mais plutôt dans le domaine de l'histoire sérielle, c'est même beaucoup plus ancien, puisque dans l'entre-deux-guerres, il y avait des gens qui comptaient. Alors évidemment, il n'y avait pas de calculateur, mais quelqu'un comme Henri C. avait bien senti qu'il y avait une approche quantitative à réaliser, et on lui doit beaucoup dans le domaine historiographique, parce que c'est lui qui s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'archives qui n'appartenaient pas au corpus qui avait été finalement mis en lumière par les historiens de la fin du XIXe siècle, qui étaient plutôt des grands documents, des documents patrimoniaux, mais qu'il y avait une quantité importante finalement de sources de nature qualitative, beaucoup moins connues et qui méritaient sans doute certains égards et qui permettaient de compter, donc d'essayer d'avancer sur des problématiques qui étaient des problématiques quantitatives. Et puis, dans cette histoire du grand, il y a évidemment Séville et l'Atlantique, hein, qui est le travail de thèse de Pierre et Huguette Chenu. Il ne faut pas oublier donc, que ça s'est fait à quatre mains. Et ça s'est fait à quatre mains parce qu'il a fallu saisir des quantités extrêmement importantes de données. Il ne s'agissait plus seulement de s'intéresser à la question de la fixation du prix sur les marchés, mais d'essayer de remonter en quelque sorte le fil des marchandises qui pouvaient être transportées à travers l'Atlantique, et puis de combattre le mépris pour les sources statistiques qui faisaient l'objet, j'ai envie de dire, de déclassement, souvent de destruction. Ce n'étaient pas des sources intéressantes finalement, et il se trouve qu'elles étaient très nombreuses dans le domaine maritime, et donc c'est Pierre et Huguette Chenu qui sont parvenus à mettre en lumière, à mettre l'emphase sur le rôle que pouvaient jouer ces archives-là. Alors, leur observatoire, c'était Séville, hein, c'est le port de l'ouverture atlantique dans le contexte espagnol, et vous voyez que l'objectif des Chenu, c'était véritablement, à travers les comptages, à travers l'histoire sérielle, eh bien de, ni plus ni moins, que de livrer le rythme du monde. Bah oui, on était dans l'Europe de la Renaissance, de la première modernité, et finalement, cette ouverture atlantique, c'était celle qui donnait l'impulsion à l'ensemble de l'Europe. Il a donc fallu valoriser le travail extrêmement ingrat et méconnu des agents de la Casa de Contratación, qui était l'institution qui se chargeait de surveiller les entrées et les sorties du port de Séville. Et vous le voyez, l'entreprise, c'est mettre le chiffre au cœur des affaires historiques, refuser de ne rien construire qui ne vint s'ordonner autour de la série élaborée. Donc là, on est sur un autre aspect des humanités numériques. On est sur celui du traitement de la donnée chiffrée, des tableaux statistiques. Et c'est évidemment quelque chose, ce sont des choses sur lesquelles il fallait absolument revenir. Alors, l'héritage des Chenu dans les années 60-70, ben, il se développe autour de ce que j'appellerais une géohistoire du fait maritime, c'est-à-dire que des gens vont reproduire ce qui a été fait dans le cadre de la thèse sur Séville et l'Atlantique. On va compter, mais on va compter à partir de points d'observation qui sont des points plus modestes. J'espère qu'il n'y a pas trop de Bretons ni de Malouins dans la salle, mais ce n'est pas faire injure à Saint-Malo que de dire que c'est moins important que Séville à l'époque moderne, même si c'est très important. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de la thèse de Jean Delumeau ? Eh bien, on s'intéresse aux sorties du port de Saint-Malo, et on compte. Alors, je vous laisse prendre connaissance des chiffres, je ne vais pas les détailler avec vous, les minimums, les maximums. Il faut savoir que bon, le travail de Jean Delumeau doit beaucoup aux étudiants de master qui se sont chacun approprié une année des sorties du port de Saint-Malo, et au bout du compte, il est parvenu donc à reconstituer la série complète. On a la même chose pour Rouen avec Pierre Dardel. On a une autre version par un médiéviste, Henri Touchard, sur le commerce maritime breton à la fin du Moyen-Âge. Ce sont des gens qui comptent et qui vont caractériser finalement des outils de projection maritime à travers l'existence d'archives qui contrôlent des navires, qui donnent leur carte d'identité, leur tonnage, la quantité de fret à bord, sa diversité. Et puis, il y a des histoires de taxes. Bon. Et puis, je ne voulais pas faire ce tour d'horizon sans m'arrêter sur le travail de Christian Huetz de Lamps, parce que lui, c'est un géographe. Vous voyez que son travail est un peu plus tardif. Et il va utiliser les mêmes sources, mais il va finalement offrir à ses analyses historiques une extension qui nous amène vers la pluridisciplinarité, puisque son travail, qui s'intitule « Géographie du commerce de Bordeaux », bah, c'est un travail de géographie historique, et il y a quantité de cartes à l'intérieur. Il y en avait déjà dans les ouvrages précédents, mais là, on a affaire à un véritable atlas. Et on bascule dans autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça quand on est historien à Poitiers et puis qu'on a des étudiants ? Même si on n'a pas vécu dans les années 50, 60 ou 70, on se dit que ce serait un peu bête de ne pas se réapproprier les bonnes vieilles techniques qui ont été éprouvées par ces générations d'historiens. Et par exemple, on leur propose à ces étudiants poitevins de travailler sur des sources inédites. Hein. On a une grande enquête du règne de Louis XIV. C'est le fils de Colbert, qui s'appelle Seignelay, qui la lance. Et il s'agit tout simplement de mesurer, de recenser de la manière la plus concrète qui soit le nombre de navires présents dans chacun des ports du littoral français, le nom de leurs propriétaires, leur tonnage, le nombre de marins embarqués à bord. Il y a à la fois un petit peu de données qualitatives, mais il y a du quantitatif. Et puis, on va apprendre aux étudiants, tout simplement, ce que c'est que de réaliser une base de données simple à partir d'une table Excel toute bête, mais en essayant d'adopter des bonnes règles, des bonnes pratiques dont on a entendu parler tout à l'heure, qui seraient évidemment à perfectionner pour qu'elles entrent dans les grilles, dans les cadres qui nous sont proposés par Humanum. Mais en gros, en faisant ce genre de travail-là, on ne s'écarte pas trop de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, par exemple, coder ce qui est répétitif. La question donc du portuaire, ici on est à Dunkerque, donc j'ai un code du port qui commence par les trois premières lettres du port, D-U-N, et puis j'utilise un numéro d'ordre qui reprend trait pour trait le document que j'ai fait étudier aux étudiants. J'ai le numéro de la page dans ce document-là qui est conservé, Dieu sait pourquoi, dans le fonds ancien de la chambre de commerce de Dunkerque. C'est pour ça que j'ai pris Dunkerque, mais il concerne toute la France. Le type de navire, le nom du navire en disant aux étudiants, on va postposer l'article, parce que les navires ont tous un nom qui commence par le, la, les. Et donc on va le postposer, parce que si on veut faire un tri alphabétique, la question de l'article va se poser, et donc on va le mettre entre parenthèses derrière. Même chose un petit peu pour le nom des capitaines et propriétaires, où on va mettre les prénoms derrière les noms, mais on pourrait très bien choisir de faire deux champs, l'un pour les noms, l'un pour les prénoms. Et puis ensuite, des choses que Pierre Chonu et Huguette Chonu auraient pu travailler, c'est-à-dire des tonnages, des nombres d'hommes d'équipage, des canons, des années de construction, et puis quelques remarques qui pourrait être évidemment perfectionné, parce que vous voyez qu'il y en a plusieurs qui commencent par « construit en ». Donc là, on pourrait imaginer un champ qui s'appellerait « construit », et puis on cocherait, et on ne mettrait dans le champ d'à côté que la date de la construction. Voilà. Donc ce sont, j'ai envie de dire, de bonnes pratiques, de base, qui sont les héritages de cette première phase de l'historiographie, et qui permettent à tout un chacun, et à beaucoup on a beaucoup d'étudiants finalement qui arrivent en master, et nonobstant le fait qu'ils sont des digital natives, comme on dit, ils utilisent beaucoup les écrans, ce type de précautions-là peuvent leur apparaître assez souvent nouvelles, et il faut leur expliquer l'intérêt concret pour pouvoir classer, trier, filtrer, d'utiliser ce genre de précautions. Alors, pour moi, en apprenant aux étudiants à faire ce travail-là, qui appartient, je le répète, à une sorte de vieille histoire, finalement, école des annales, jusque dans les années 70-80, il me semble qu'on résout pas mal de problèmes. On résout peut-être les problèmes qui étaient groupés dans mon premier groupe de tâches que j'ai identifiées dans ma chaîne de travail. C'est-à-dire, on les amène à s'interroger sur une problématique. J'ai un document sous les yeux. Quel type de problématique est-ce qu'il peut me permettre d'exploiter ? Et puis, cette source-là, qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on la transfère en données qui soient utilisables par tout un chacun ? J'y reviendrai à la fin de mon exposé, mais je ne vais pas faire du teasing. Il se trouve que la feuille Excel revient en grâce de nos jours parce que on se dit que finalement, le tableur ou le fichier format CSV, il a beaucoup d'avantages parce qu'il est lisible par tout le monde. On connaît sa pérennité, elle est certainement très forte parce qu'il n'est pas très complexe. Il est facile à transférer et il répond finalement à un certain nombre de préconisations qui sont des préconisations nationales, voire internationales. On a entendu parler tout à l'heure de la directive FAIR, la FAIR, qui invite donc à organiser la pérennité, l'accessibilité, l'interopérabilité et surtout la pérennisation donc de la conservation de la donnée. Ce type de fichier-là est pratiquement idéal et on peut le transférer dans beaucoup d'autres applications, dans beaucoup d'autres logiciels dont on a entendu parler tout à l'heure et qui vont permettre de le transformer. Donc, une sorte de travail de base, finalement, vers lequel on peut inciter les étudiants à aller. Alors, voilà, c'était ma diapositive pour résumer ma première partie. La spécificité maritime, je n'y reviens pas, ce n'est pas trop le propos d'aujourd'hui, mais des méthodes qui, effectivement, sont assez faciles, finalement, à montrer et à faire partager à partir des sources de l'histoire maritime. L'idée que grâce à cette phase-là, finalement, on est passé d'un comptage pur et dur à l'idée d'une territorialisation des études historiques, avec l'entrée du cartographe dans le jeu scientifique, dans cette phase-là. Et puis, j'ai envie de dire, des activités secondaires qui, en termes maritimes, des activités qui étaient plus ou moins invisibles, mais qu'on peut arriver à faire apparaître. On va en parler dans la deuxième partie, puisque cette deuxième partie, elle tuile la première. On commence à travailler dans les années 60 à mieux connaître le petit. Et le petit, c'est par exemple le monde des pêches, des plus grandes aux plus petites, qui n'avaient pas du tout, évidemment, intéressé ni les Chaunus, ni Dardel, ni Touchard, qui faisaient l'histoire du grand, l'histoire des grands ports, des grandes portes d'entrée et de sortie du commerce national et international. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a tout un ensemble d'études qui ont repris trait pour trait les méthodes qui étaient celles de ces historiens de la première génération et qui les ont appliquées, alors je ne dis pas à l'infiniment petit, mais à des objets beaucoup plus petits, des villes moyennes, des petites villes, des petits villages, qui ont amené progressivement les historiens à devoir dialoguer avec d'autres sciences. Et ça, c'est véritablement peut-être ce qu'on pourrait mettre en avant pour cette deuxième phase. Donc on le voit dans le domaine des pêches, des plus grandes aux plus petites. On le voit dans le domaine de l'exploitation de l'estran, c'est-à-dire de cette zone alternativement découverte et recouverte par la mer, à travers l'exploitation des poissons qu'on peut piéger dans des pêcheries fixes, à partir de l'exploitation des végétaux qu'on peut ramasser pour fertiliser les champs, à partir de l'économie du sel, qui est quelque chose qui est extrêmement bien connu sous l'Ancien Régime parce que très taxé et très contrôlé. Donc évidemment, pas de souci pour mettre la main sur les archives. Et puis, les transporteurs de faible à moyen rayon d'action, qu'on appelle les caboteurs, et qui ont donné lieu à une intense production historique, plutôt à partir des années 2000. Et là, c'était des gens qui travaillaient avec les outils les plus actuels, en tout cas à cette époque-là. Alors, de cette période-là de l'histoire et de la manière de faire et d'écrire l'histoire, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on a pu finalement récupérer? Peut-être des dimensions supplémentaire, c'est-à-dire un aspect de formation à l'analyse et à la synthèse à travers les outils numériques. Alors, moi, je l'ai fait, par exemple, dans cette époque là, que je viens de vous proposer. C'était la grande époque où, ici, à Poitiers, on travaillait dans le cadre des commémorations de l'installation des Français en Amérique du Nord. Première installation en Acadie en 2004, deuxième à Québec en 2008, en 1604 et 1608. Donc, 2004-2008, les commémorations. Et il y avait des commandes de la part du gouvernement fédéral canadien à travers de multiples canaux. Et donc, on s'est mis à travailler sur les archives françaises qui parlaient du Canada. Et en fait, elles sont plus nombreuses, ces archives-là, conservées en France, que celles que les Canadiens ont à leur disposition chez eux. Et il y avait, par exemple, ce que je vous montre là brièvement, il y avait, par exemple, des correspondances. Donc là, on n'est plus du tout dans de la taxation, des tableaux de chiffres, des commissaires qui taxent le tonnage du navire, la marchandise, etc. On est dans de la donnée qualitative, et de la donnée qualitative qui invite à traiter des chaînes de caractères. Alors, la difficulté à l'époque, c'est que, étant donné que c'est de l'écriture du XVIIe et du XVIIIe siècle, on n'a pas le choix, il fallait le saisir à la main. Aujourd'hui, on a les logiciels de reconnaissance vocale qui sont extrêmement pratiques pour pouvoir réaliser ce travail-là. Donc, comme il fallait faire la saisie à la main, on essayait de se faciliter la tâche. Alors, vous voyez, il y a des champs qui sont des champs discriminants, les lieux dont on parle, les personnes dont on parle, les navires qui sont cités dans la correspondance. Et en fait, dans la chaîne de caractères, on a mis des parenthèses chaque fois qu'on avait le lieu, le navire, etc., parce qu'on n'avait pas envie de le retaper une deuxième fois, quoi. Bon. Évidemment, aujourd'hui, on ferait ça de façon très différente. Et puis, au bout, il y a les aspects problématiques. C'est-à-dire que la problématique à laquelle on pense, elle peut être, par exemple, une problématique de travailler sur les subsistances. Les Français qui s'installent en Amérique du Nord, ils sont, dans un premier temps, assez vulnérables. Ils comptent beaucoup sur les Amérindiens pour pouvoir passer l'hiver. Et donc, ils comptent aussi beaucoup sur le vaisseau du roi, sur l'aide qu'on peut leur apporter, les livraisons de farine, etc. Donc, il y a, par exemple, les approvisionnements. Mais il y a aussi des choses qui sont relatives à la défense de la Nouvelle-France, des aspects militaires. Il y a évidemment, dans le cadre de la colonisation, des aspects liés au peuplement, des migrants à qui on fait traverser l'Atlantique, de l'économie, du transport, de la logistique. Donc là, vous voyez, on a réalisé un certain nombre de champs qui sont des champs discriminants, dans lesquels on a tout simplement codé vrai ou faux, pour dire si l'extrait qu'on avait en face concernait l'une de ces catégories-là. Alors là, vous voyez, on avance encore sur autre chose, parce que ces champs qui sont discriminants au bout, ils sont le résultat de questions qu'on s'est posées. Ça veut dire qu'on a déjà commencé à réfléchir de façon très approfondie aux problématiques que l'on veut exploiter. Et ce n'est pas une stratégie sans regret, parce que On a créé 5 champs, on peut en créer un 6e. Ça oblige évidemment à relire tous les extraits, tous les résumés qu'on a mis dans la base de données et à les coder vrai-faux. Mais ce n'est pas un travail insurmontable à partir du moment où on a le texte brut qui permet de reprendre connaissance de cette réalité. Dans le même ordre d'idées, on a également travaillé sur des sources, on a également travaillé sur des modèles de bases de données relationnelles autour de ces sources-là. C'est-à-dire que les informations qui étaient à l'intérieur de ces correspondances étaient tellement denses et tellement diverses qu'on aurait pu multiplier à l'infini les champs discriminants au bout de la feuille Excel. C'est-à-dire qu'il aurait fallu peut-être avoir 25 ou 30 champs qu'on aurait codés vrai-faux. Et donc, la solution qui a été trouvée, c'est de travailler sur des modèles de bases de données relationnelles, type Access, ici c'est l'interface Access, mais FileMaker Pro, évidemment, en est une autre. Et il y en a plein d'autres aujourd'hui. Il y a même des solutions en logiciel libre, hein, OpenBase, par exemple, pour ne pas le citer. Et donc là, l'idée, c'est de créer des tables différentes qui vont être reliées les unes aux autres par des champs qui sont des champs codés. Hein, ça veut dire que les tables dont vous voyez qu'elles sont les plus petites, c'est-à-dire celles qui, finalement, rassemblent un minimum de catégories ou de catégories différentes, eh bien, elles abritent des codes qui sont reportés dans les tables les plus denses où on a choisi de ne pas multiplier les références aux localités, aux professions, aux ports, aux grades suivis par les gens de mer, etc. Donc là, c'est une autre, une évolution en quelque sorte que je daterai des années 90-2000, quoi, hein, avec la maîtrise de ces outils qui aujourd'hui font partie un petit peu du bagage qu'on doit transmettre à nos étudiants. Alors, pour faire quoi ? Pour faire ce genre de choses, par exemple. C'est-à-dire pour jouer à Christian Wetzelamp, qui, lui, travaillait avec une équipe d'un laboratoire cartographique qui était parmi les plus avancés à l'époque, celui de l'Université de Bordeaux, dans les années 70. Dans les années 90, dans ma modeste forge, vous utilisiez ce terme tout à l'heure, dans mon atelier, avec mes étudiants, en bricolant les choses et en les faisant de manière vraiment rigoureuse, on arrive à ce genre de production. Donc là, ce sont les troupes envoyées depuis Rochefort entre 1716 et 1750, et vous avez les destinations et les effectifs. Alors, cette histoire maritime entre micro-histoire et histoire globale, vous voyez qu'elle a repris les acquis de la génération précédente et elle les a appliqués à une foule d'objets historiques qui était passé sous les radars de la génération précédente. Et ce faisant, elle a fait surgir un certain nombre d'autres problématiques, parce que, il faut bien le dire, l'école des annales s'intéressait beaucoup à l'histoire économique. Hein. Et là, on a vu apparaître d'autres problématiques, des problématiques sociales, des problématiques politiques, des problématiques stratégiques, tactiques, que sais-je encore. Il se trouve qu'au bout de cette analyse, quand on a pensé avoir épuisé le sujet, on s'est rendu compte qu'on avait ce que les sciences avec lesquelles on avait commencé à travailler à travers ces différents chantiers appellent des proxys. C'est-à-dire que nous, jusque dans les années 90-2000, on lisait nos archives, on en sortait un certain nombre d'informations explicites, et puis on faisait ce que les gens des annales nous avaient appris, c'est-à-dire on comptait, on dénombrait, on évaluait. Mais il se trouve que l'ensemble de ces indicateurs qui nous étaient fournis de façon explicite sont aussi révélateurs d'autres données qui peuvent être des données plus implicites, notamment des données environnementales. Je ne prends qu'un exemple. Quand vous avez un port ridiculement petit, au début de la période, au XVIe siècle, qui accueille des navires eux-mêmes ridiculement petits, 15 tonneaux, 20 tonneaux, et puis que vous le voyez accueillir des navires plus gros à des époques plus récente, 17e, 18e siècle, ça vous invite à aller chercher s'il y a eu des aménagements. Et s'il n'y a pas eu d'aménagement, vous êtes obligé de tomber sur l'idée qu'il y a eu des évolutions environnementales. J'ai pris l'exemple du port qui s'ouvre, qui accueille des navires de plus en plus gros. Je pourrais prendre celui beaucoup plus courant, d'ailleurs, du port qui se ferme, hein, et que l'on voit même disparaître. Et ça, évidemment, personne ne nous le dit, si ce n'est le fait que dans les archives, on voit des navires de plus en plus petits, intégré, entrer dans ce port, et puis un jour, il disparaît de nos tablettes. Alors, ça, c'est, j'ai envie de dire, peut-être l'un des moteurs de la période dans laquelle on est impliqué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on continue à faire de l'histoire quantitative quand on fait de l'histoire maritime, parce que d'abord, il y a encore quantité de sources qui nous permettent de le faire. Et Il ne faut pas trop le dire, mais les modernistes ont tendance aussi à pas mal gruger les contemporanistes parce qu'ils travaillent sur les données du 19e siècle qui sont encore plus, j'ai envie de dire, nombreuses et parfois beaucoup mieux conservées. Hein, donc là, on voit des évolutions sur le temps plus long. L'idée, c'est quand même que on peut donc étendre les champs du possible en termes d'histoire économique. Par exemple, en remontant des filières. C'est-à-dire, le port n'est qu'un passage. Mais avant le port, il y a des fournisseurs, il y a des réseaux de transport, il y a des négociants, il y a des banquiers qui donnent du crédit, etc. Et en face du port, il y a un avant-port, et puis il y a une zone de projection économique, etc. Donc là, vous voyez qu'on est sur d'autres problématiques, comme celle qu'a explorée, par exemple, Olivier Le Gouic dans sa thèse « Lyon et la mer ». Autre thèse publiée au PUR et qui épouse rigoureusement le même schéma, La question de l'exploitation de ce qu'on appelle les commodity chains, hein, c'est-à-dire, voilà, on a le vin de Bordeaux, le vin du Sud-Ouest, et on s'intéresse à savoir comment il est diffusé dans une province comme la Bretagne, qui ne produit pas de vin sous l'Ancien Régime, mais qui en boit beaucoup. Voilà, donc... Et encore. On peut faire aussi une éco-histoire des mers et de leur exploitation. Alors ça, c'est vraiment très récent, hein, à travers les travaux de Daniel Fagé, qui est un collègue chercheur du laboratoire Telem à l'Université d'Aix-Marseille. Et là, vous voyez que c'est plus seulement une histoire des navires, des marins, et puis des poissons qu'on en sort et qu'on pèse, mais c'est une histoire qualitative, c'est-à-dire quel type de poisson, et puis quel type de produit de la mer, et puis qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on les retrouve. Donc cette histoire-là, elle s'étend jusque dans les cabinets de curiosité, jusque dans les collections des musées, pour voir finalement où on peut tracer l'existence de ces résultats-là. Alors, tout ça s'est rendu possible parce que l'histoire maritime, et elle n'en est pas du tout, elle n'en a pas l'exclusivité, elle s'est également organisée au niveau international pour remettre en musique finalement les données sur lesquelles elle avait l'habitude de travailler de façon un petit peu dispersée, dans des forges, dans des petits ateliers. Et là, on a véritablement des opérations de grande envergure. Alors, pas toujours pilotées par des historiens d'ailleurs, hein. Le projet européen CLIVOC, Climatological Database for World Oceans, il reconstitue les routes maritimes suivies par les grandes flottes de commerce des temps modernes. Donc il les trace, il crée comme ça des espèces d'écheveaux de routes maritimes. Donc ici, celle des Espagnols dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Bah, ils sont plutôt évidemment dans l'exploitation de leur empire atlantique. Là, celle des Hollandais, avec leur possession dans l'insulinde. Là, celle des Anglais, ils sont partout. Voilà, donc c'est pas la peine de détailler. Mais en fait, cette production-là, elle a été réalisée essentiellement pour travailler sur de l'histoire météorologique. Ouais, c'est-à-dire que travailler sur les routes, ça a été l'occasion de travailler sur les vents. Et donc, on a un consortium qui a été réuni, plutôt autour de gens qui étaient dans la météorologie et les géosciences et qui se sont associés, comme ça, chemin faisant, des historiens, parce qu'il y avait quand même ces archives qu'il fallait identifier, qu'il fallait traiter. Mais bon, là, ce sont des programmes qui, de mon point de vue d'historien, ne sont pas sans poser un certain nombre de questions. Autre programme que je peux vous présenter, hein, le programme slavevoyage.org, qui est une base de données recensant l'ensemble des navires ayant participé à la déportation des esclaves d'Afrique vers l'Amérique. Et là, donc, on voit à travers cette énorme base de données, eh bien, la participation de chacune des puissances européennes, voire même ultramarines avec les États-Unis, un graphique de fréquence. Qu'on peut évidemment, celui-ci c'est celui à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, mais il y a un système de cases à cocher qui permet d'avoir le graphique de fréquence portugais, espagnol, français, etc. Et puis bon, on peut sortir des cartes. Donc là, on est sur autre chose. On est sur un consortium qui a créé un certain nombre d'outils, qui a participé donc à la captation, à la mise au passage de la source à la donnée, à l'organisation de l'information et qui offre une interface d'interrogation de la base de données, une interface qu'on pourrait qualifier de ergonomique, c'est-à-dire que c'est pas très difficile à prendre en main, On est un petit peu dans le web SIG, mais à l'aide de données historiques. Et ça, ça fait partie également des avancées assez, assez intéressantes. Alors, un autre exemple, un exemple français qui est un work in progress, hein, parce que pour l'instant, vous le voyez avec les interfaces graphiques que je vous propose, ça reste encore presque à l'âge de pierre, pourrait-on dire. Mais c'est le résultat de l'ANR Navigo Corpus qui s'est proposé de retracer l'ensemble des sorties des ports français au cours de l'année 1787. Année repérée parce que les archives de contrôle des sorties des ports étaient complètes aux archives nationales, qu'on n'était pas en une période de guerre, qu'on était assez loin encore de la Révolution française, et donc qu'on avait une année de fin de 18e siècle plutôt, on va dire, pertinente, et en tout cas peu susceptible d'avoir été perturbée. Alors, pour moi, ça pose la question du miracle, parce qu'évidemment, quand on voit ça, on se dit ben, c'est miraculeux. Et on est quelque part entre le miracle et la catastrophe historique, parce que je vais vous proposer un dernier exemple. C'est un travail qui est mené par un consortium plutôt de collègues des pays baltes et des Pays-Bas autour de l'université de Groningue. C'est un consortium qui s'est fixé comme entreprise la mise en ligne de la totalité des navires qui ont été taxés dans les détroits du Sund au Danemark, qui permettaient le passage de la Baltique au reste du monde. Voilà. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que la Baltique, au temps moderne, c'est le Moyen-Orient d'aujourd'hui. On y va chercher tout ce dont on a besoin pour naviguer. Le bois pour les mâts et les coques des navires, les toiles pour les voiles, le chanvre pour rendre les coques étanches, etc. Donc on peut faire le parallèle, et c'est évidemment un point d'observation tout à fait capital. Or, qu'est-ce qu'on observe quand on fait travailler des étudiants, alors cette fois-ci non plus comme contributeurs, mais comme utilisateurs ? On leur dit, ben voilà, nous on est dans le centre-ouest français et il y a une denrée dont on sait qu'elle passe systématiquement de l'espace atlantique vers la Baltique, c'est le sel. La Baltique est une mer très peu salée, pas trop ensoleillée. J'espère qu'il n'y a pas de baltes dans la salle qui louent des paillotes sur la plage quelque part. Donc évidemment, tous les pays riverains de la Baltique achètent du sel. Et donc on se dit, on a une capitale du sel en centre-ouest français, elle s'appelle Brouage. Et donc on dit aux étudiants, allez-y, cherchez Brouage dans la base de données. Eh bien, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'à un moment donné, le travail des historiens, il est fondamental. Toutes ces entreprises de big data, etc., qui sont pluridisciplinaires, si elles n'embarquent les historiens que comme, comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Comme caution. Tu avais une autre expression à me fournir, Nadine ? Supplétif. Eh bien, ils peuvent passer à côté d'informations qui sont capitales. Je ne voudrais pas dénoncer les petits camarades parce que c'est des gens avec qui je m'entends fort bien, mais la première fois que j'ai rencontré César Ducruet, qui est à la tête d'un programme européen bâti sur les archives de la Lloyd, donc qui est la maison d'assurance créée au XVIIIe siècle pour assurer les navires sur les océans du globe, il me dit on ne comprend pas bien parce que on a un gap entre les 1000 marins déclarés par les navires quand ils partent de l'Angleterre et qu'ils vont en Extrême-Orient, qui sont relativement courts, et puis les routes contrastent de façon automatique avec nos logiciels. Il avait simplement oublié qu'à un moment donné, on a percé le canal de Suez. Donc, il faisait parcourir à ses navires des routes qui étaient extrêmement longues, il contournait le continent africain, et il avait d'un autre côté des statistiques de consommation de charbon, d'eau, et puis des escales qui ne correspondaient pas du tout aux routes qu'il avait tracées. Donc là, c'est un plaidoyer pro domo, c'est-à-dire qu'on peut et on doit travailler avec des gens qui ont la maîtrise d'outils avancés dans plein d'autres domaines, mais s'ils veulent vraiment travailler sur des données historiques, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent le faire de façon sérieuse et en évitant les choses trappes, il faut qu'ils intègrent les historiens très tôt. Alors voilà. Avec les étudiants de Poitiers, on a pisté Brouage dans la base de données du Zoom, Toll, Register, Online. Et on a trouvé Brouage. Brouage s'appelle Brouzy. Brouage s'appelle Brouadjeux. Et en fait, c'était des noms qui avaient été mis dans une espèce de poubelle informatique parce que le consortium n'avait pas été en état de les identifier. Donc là, ça ouvre aussi sur une autre dimension que je voulais évoquer avec vous, c'est la dimension collaborative. C'est-à-dire que ça fonctionne très bien parce que les gens du consortium, ils ont conscience des faiblesses de leur système. Ils ont fait appel par l'intermédiaire de réseaux. Ici en France, on a un réseau très efficace qui est soutenu par le CNRS, qui est le groupement d'intérêt scientifique Histoire et Sciences de la Mer. J'en fais partie, je fais même partie des cadres. Et donc, ils nous ont fait appel à nous. Et voilà, on a monté des ateliers dans nos universités respectives. On a fait bosser nos étudiants. Et ils ont tracé les zones d'ombre, les problèmes qui pouvaient être récurrents. Et puis alors, ce qui était rigolo, c'est que par l'intermédiaire de cette enquête-là, on a fait sortir de Bruges beaucoup de brouages. Hein, donc vous voyez un petit peu les problématiques sur lesquelles on arrive. Et évidemment, on a fait sortir de Bruges. Alors, de quelle manière? Parce que vous allez me dire, avec une chaîne de caractères, c'est spécieux. Ben, on a fait sortir de Bruges des navires qui passaient la Baltique chargés avec du sel. Parce que autant les ports hollandais sont connus pour être des ports d'entrepôt du sel, où il est vraisemblable que des navires puissent charger du sel, parce que les Hollandais le stockent pour faire de la spéculation au moment où les cours s'envolent et font passer la Baltique à ce moment-là, autant Bruges n'est pas du tout connu pour être, à l'époque moderne, ou même à la fin du Moyen-Âge, un port d'entrepôt du sel. Donc ça nous a permis, en croisant les deux informations, de faire cette discrimination. Alors, on m'avait donné une grosse demi-heure, donc je suis tout à fait dans les temps. Tout ça pour vous dire, au bout de mon exposé, que je suis un modeste artisan. Qu'est-ce que je fais, en fait? Vous avez remarqué, je ne suis jamais au centre de tous ces trucs-là, quoi. Mais je m'honore de participer quand on me demande. Et j'estime faire progresser la cause de l'histoire à l'intérieur des humanités numériques, parce que, bien souvent, on s'aperçoit que toutes ces opérations-là, elles profitent d'un certain nombre de financement, hein, qui honore des consortiums dans lesquels les historiens sont trop peu nombreux ou en tout cas intégrés à la marge. Et il me semble extrêmement important pour notre communauté de travailler à rester au cœur de ces problématiques-là. Alors, ça demande un travail. Pour moi, ce travail-là, il se concentre au moment de ma connaissance du dossier et de son évolution tel que je le perçois aujourd'hui. Je pense que l'essentiel de mon travail, il se concentre en amont, c'est-à-dire au moment où il faut faire passer les choses de la source à la donnée. C'est un petit peu comme quand on est quand on fait du tir sportif. Si vous déviez le canon de quelques millimètres au départ, vous allez rater la cible de plusieurs mètres. Et je pense que si les historiens sont dans le consortium très tôt et qui peuvent apporter leur regard, eh bien, ils permettent ensuite à quantité d'autres métiers à l'intérieur de la chaîne de travail de bien faire leur travail et ils conservent évidemment la possibilité. Et ça nécessite de la part des historiens de connaître le travail des autres, mais pas forcément de le maîtriser parce que c'est un métier. Et on en parlait tout à l'heure en aparté. Ce métier-là, malheureusement, les institutions dans lesquelles on travaille ne nous donnent pas le temps ou la liberté de nous y former, même si ça pourrait avoir des côtés extrêmement passionnants. Voilà. Donc des programmes pluridisciplinaires en cours, il y en a un avec lequel je vais bientôt commencer à travailler, qui est un programme mené par des économistes sur les entrées et les sorties contrôlées par la ferme générale, donc la douane au XVIIIe siècle. Donc là-dedans, il y a des économistes, des statisticiens, des sigistes, des analystes programmeurs. Bon, l'historien est maintenant au défi de la modélisation, c'est-à-dire qu'on lui demande, tiens, ben grâce à tes données historiques, est-ce que tu pourrais pas nous aider à faire tourner des moulinettes qui prédisent l'avenir? Ça existe aussi, hein, il faut le savoir. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que dans le monde pluridisciplinaire, il y a des ingénieurs, il y a des spécialistes du risque, de la prospective, qui se sont dit, ben, en fait, on fait tourner des applications qui modélisent l'avenir avec des données qui sont des données presque théoriques, quoi. Si on arrive à y implémenter des données réelles, validées par les historiens, là, ça a du sens. Et ça permet de réduire le degré d'incertitude. Voilà. Alors, par exemple, il y a un groupe de travail autour des tempêtes qui donnent lieu à des submersions marines. Et là, avec un tour de table où il n'y a pratiquement que des institutions qui n'étaient pas tellement habituées à travailler avec des historiens, c'est-à-dire le service hydrographique et océanographique de la marine, le BRGM, EDF, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Enfin, voilà, c'est des gens qui ne se tournent pas naturellement vers les historiens, mais qui ont compris que leur modélisation gagnerait en fiabilité et en robustesse s'ils pouvaient disposer de données historiques fiabilisées par les historiens. Voilà. Alors, si je reprends en quelque sorte le voyage auquel je vous ai invité à travers le temps, Bon, on a d'abord une étape qu'on pourrait qualifier de quantitativiste, qui s'est terminée par des expérimentations en termes de représentation graphique et cartographique. Hein. Je vous renvoie donc à Christian Wetzelamps avec sa géographie du commerce de Bordeaux à la fin du règne de Louis XIV. De façon tuilée avec cette période-là, on a également donc vu se développer toute une histoire partant du local parce qu'on s'est intéressé aux petits acteurs et débouchant sur le global. Et aujourd'hui, on est dans une ère que je qualifie moi de e-pluridisciplinarité, c'est-à-dire que l'historien est sollicité pour être intégré à des groupes pluridisciplinaires dans lesquels on fait du big data, on met au point des outils d'analyse, voire des outils de réanalyse et de modélisation. Donc là, on se projette dans l'avenir. Sur le plan météo, ça marche très bien. Sur le plan marin aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est promis certainement à des développements. Alors, si je reprends un petit peu ce que je vous disais en introduction, pour moi, personnellement, hein, mais c'est très discutable, et puis je sais à la génération à laquelle j'appartiens, donc évidemment, avec l'âge et la connaissance qu'ont les membres qui sont dans le public, les choses peuvent changer, mais à mon avis, mon cœur de métier, c'est plutôt la première étape. Hein, c'est-à-dire que dans l'environnement dans lequel j'évolue maintenant, si je ne suis pas présent à la première étape, il n'y a aucune chance qu'on arrive à m'attirer sur un programme. Parce que je ne veux pas travailler sur de la donnée historique dont je ne sais pas d'où elle vient, qui l'a validée, etc. Ce qui ne veut pas dire que je me désintéresse des autres étapes, mais évidemment, pour faire le lien avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, les autres étapes peuvent bénéficier d'un appui technique, scientifique, de l'ingénierie, à la fois des chercheurs avec qui on travaille, et puis du Manium qui, comme on l'a vu, est pourvoyeur de conseils et de bonnes pratiques. Et quand on n'en est pas très familier, je crois que c'est une bonne manière finalement de concevoir la recherche aujourd'hui et surtout demain. Et donc on peut accompagner des étudiants en sachant que peut-être sur les étapes 2 et 3, ils vont devenir beaucoup plus forts que nous. Mais je vais vous dire, à un moment donné, on était beaucoup plus forts que nos profs, donc... il faut bien accepter que la règle du jeu se reproduise et c'est plutôt finalement quelque chose de très sain. Voilà, je vous remercie.
Ça marche pas. Ça marche.
Merci pour votre exposé. Et à vous écouter, j'ai pensé à l'un de nos docteurs qui nous faisait savoir que faire de la recherche, c'est renommer les choses. Et j'aimerais savoir, parce qu'on sait que depuis la deuxième moitié du XXe siècle, l'informatique devient de plus en plus l'outil générique utilisé par tout le monde. Mais quand j'essaye de voir ce qu'on fait en humanité numérique, j'ai l'impression, je peux bien me tromper, que c'est une sorte de marketing. Et là, j'aimerais vous poser la question de savoir quelle est la différence entre l'utilisation de l'informatique dans la recherche et les humanités numériques, s'il y en a, bien sûr.
Alors, peut-être que je vais rebondir sur votre réflexion préalable, c'est-à-dire la question du marketing. Je pense que si on prend la précaution et je pense que maintenant, je veux dire, c'est couramment admis, les porteurs de ces programmes pluridisciplinaires, les consortiums, si le centre de gravité n'est pas chez les historiens, ce qui arrive encore quand même assez souvent, malheureusement, mais qui veulent travailler sur de la donnée historique, ils se rendent compte que, voilà, il faut éviter les ratages et donc il faut intégrer les historiens. Moyennant quoi, je ne pense pas que ce soit du marketing. Parce que, par exemple, sur slavetrade.org, qui aujourd'hui vous donne accès à l'ensemble de la donnée historique. Toutes vos questions en tant qu'historien peuvent aujourd'hui trouver des réponses. Alors qu'il y a 20 ans, vous n'auriez jamais eu les moyens de faire le tour de l'Atlantique pour mobiliser toutes ces sources-là. Donc je ne pense pas que ce soit seulement du marketing. Il peut y en avoir, je ne peux pas le nier, mais je ne pense pas que ce soit seulement ça. Et après, en termes de distance avec les humanités numériques, la recherche avec l'informatique ou le... Je sais pas trop quoi vous répondre. Pour moi, je pense que c'est assez confondu, mais j'ai bien conscience que ce que je vous ai montré là, ce n'est qu'un aspect des humanités numériques. Parce que ça part plutôt de l'histoire quantitative et ça montre comment Les gens qui travaillaient dans ce cadre-là, qui était un cadre finalement assez fermé, se sont progressivement appropriés de la donnée qualitative. Et ils l'ont mise en dialogue avec la quantité, avec la série. Voilà. Mais évidemment, c'est qu'un aspect du problème. On a vu tout à l'heure que le texte intelligent, il y a quantité d'autres aspects, les images intelligentes. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Ok, merci pour votre réponse. Je comprends que c'est l'utilisation de l'informatique qui est en train d'évoluer et qui prend cet aspect de humanité numérique. Merci beaucoup.
Merci. Bonjour, Philippe Lacour. Je suis enseignant de philosophie des sciences à l'Université de Brasilia et responsable d'un petit projet d'humanité numérique lié à la traduction avec l'Université de technologie de Troyes. Merci pour votre présentation. J'ai une question un petit peu sur le qui touche à votre introduction, votre conclusion et plus précisément votre pratique. Vous dites le problème fondamental, c'est quand même celui de la transformation de la source en données. C'est le cœur du métier. Il faut insérer les historiens dès le départ pour éviter l'erreur de visée. J'aimerais un petit peu vous poser une question de provocation et mettre votre proposition à l'envers. Est-ce qu'il ne faut pas, dès le départ, mettre plutôt des ingénieurs dans des groupes d'historiens ? Parce que là, vous mettez un petit peu l'historien au service d'une informatique qui existe déjà. Et tout ce que montre votre exposé, c'est que finalement, il y a dans le travail d'historien qui est fondamental toute une part d'interprétation dans la manière dont vous allez finalement donner une signification à un document. Et ça, c'est au cœur d'un problème que nous, on rencontre pour est-ce qu'on utilise la notion de données, est-ce qu'on utilise la notion de document pour une certaine interprétation. Moi, je préfère cette notion. Et du coup, j'ai envie de vous dire, vous aviez, sous forme de boutade tout à l'heure, dit qu'il fallait peut-être former les informaticiens aux sciences humaines. Comment est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous êtes au service de groupes informatiques qui font du big data ou vous apportez une expertise ? Auquel cas, vous êtes peut-être un supplétif. Est-ce que vous avez une pratique où vous avez un rapport, on va dire, caporaliste à un informaticien à qui vous dites comment faire? Est-ce que vous êtes entre les deux? Est-ce que vous faites les trois? J'aimerais savoir, dans votre quotidien, comment vous interagissez avec la communauté informatique et est-ce qu'eux acceptent éventuellement de s'adapter à ce qui est fondamental dans les sciences humaines, qui est tout le parcours interprétatif, le fait qu'on va peut-être changer la manière de coder la signification qui peut être prédéterminée par des standards informatiques. Merci.
Alors, je vais répondre très rapidement à la fin de votre question. Je n'ai pas mon informaticien. Mais je ne sais pas si on est nombreux. On peut l'avoir de façon temporaire dans le cadre d'un postdoc, etc. Mais malheureusement, je dirais, cette plateforme existe dans le cadre de la MSHS, par exemple. Il y a des gens qui sont très compétents. Mais on n'a pas de rapport, si vous voulez, aussi caporaliste, pour reprendre votre terme. Ce n'est pas des gens vers qui on peut venir régulièrement et échanger, construire un projet, même s'ils seraient ouverts finalement pour le faire. C'est pas, je veux dire, ils ont d'autres tâches à accomplir. Et donc, voilà, ils peuvent nous accompagner, mais on n'est pas dans un rapport comme ça de co-construction entre l'ingénieur et l'historien, ce qui serait évidemment l'idéal. Lorsque ça arrive, parce que il faut bien comprendre que on est tous pareils, ce qu'on ne trouve pas forcément en local, dans l'établissement, on peut le trouver dans des réseaux. On peut le trouver dans des réseaux de recherche. Et moi, pour mon cas personnel, étant donné que je n'ai pas la prétention de monter une école d'histoire maritime ici à Poitiers, mais de familiariser des étudiants à ces questions-là, voilà, je ne vais pas, je ne vais pas influencer la politique scientifique de l'établissement pour créer quelque chose qui n'aurait pas de sens, parce qu'il y a plein d'autres établissements en France qui finalement sont plus légitimes à monter ce genre de choses. Donc, ça se fait par le biais de réseaux de recherche. Et dans ce cadre-là, on a des discussions extrêmement fécondes à travers des programmes, à travers des réseaux, avec des gens qui sont, j'ai envie de dire, inclus dans ces programmes dès le début, des ingénieurs, effectivement. Il y en a une à l'Université de La Rochelle à côté, avec qui j'ai travaillé sur les questions de géographie historique des institutions d'Ancien Régime sur le littoral qu'on appelle des amirautés. On les a délimitées, etc. Donc on a fait un vrai travail, là, j'ai envie de dire, en dialogue. ce que vous appelez d'analyse du document, j'aime pas trop le terme d'interprétation, parce que c'est la porte ouverte à beaucoup de choses en histoire, quand on dit qu'on interprète. D'analyse, quoi. D'analyse. Voilà. Et ça, oui, effectivement, à partir du moment où on arrive à avoir quelqu'un avec qui on peut dialoguer sur un dossier précis, c'est très fécond et on est sur un pied d'égalité. Et on se raperçoit que l'ingénieur est très demandeur de s'approprier les questions qui sont celles de l'historien. Parce que pour lui, c'est une manière aussi de devoir gérer la complexité de la donnée. Hein, puisque la donnée historique, elle est susceptible d'analyse et il y a parfois un delta d'interprétation. Je vous ai bassiné pendant tout mon exposé avec les tonnages des navires. Les tonnages des navires, c'est du déclaratif. C'est à la sortie des ports. On s'aperçoit que parfois, quand on a du déclaratif à l'entrée, avec d'autres sources, les mêmes navires n'ont pas le même tonnage. Parce que ce n'est pas la même chose que de déclarer un tonnage quand vous êtes taxé et de déclarer un tonnage quand vous devez concourir pour une prime, par exemple, un encouragement financier. Le navire est plus gros quand vous concourez à une prime et plus petit quand vous allez être taxé. Donc voilà, et ça, ça fait partie des choses, effectivement, que les ingénieurs sont très désireux, quand ils sont dans un projet, d'intégrer dès le départ à l'outil que l'on doit confectionner.
Bien. Merci beaucoup pour cet exposé et ces réponses. Donc, on va pouvoir aller déjeuner. On reprend ici à 14h.